Et merci le raid, et merci les gens, et merci Naotech, à tout de suite. C'est la prochaine. C'est bien la musique quand même. Hein. J'adore ce concept en fait. Je sais pas si vous connaissez. C'est des gens, parfois ils sont en groupe et ils jouent d'un instrument. Ils se mettent ensemble et à un moment il y a un ou une qui chante. Ça fait des trucs incroyables. C'est le concept musique. J'adore. Je découvre ça depuis peu. Quelle belle époque nous vivons. Je suis très heureux de vous retrouver. Certains pensaient que j'étais en vacances. Pas du tout. Pas du tout. Là c'est la semaine prochaine. Voilà. Et c'est vrai que j'en suis un peu triste par avance, mais la semaine prochaine, je ne travaille pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est une vraie semaine de vacances. Mais cette semaine, c'est 100%. C'est lundi matin, c'est aujourd'hui, revue de presse, hier matin aussi, et mardi matin, revue de presse, mercredi matin, revue de presse, joli matin, revue de presse, Vendredi matin, revue de presse, mais pas chez moi. Chez un jeune homme qui a 30 ans de moins que moi, qui s'appelle Inox. Inox Tag. What? J'étais super content quand il m'a envoyé un petit message il y a genre 10 jours, 15 jours. Il m'a proposé de participer à cet événement qu'il organise sur 3 jours dans une villa, je crois. Genre, attends, c'est jeudi, vendredi, samedi, si je dis pas de bêtises. Voilà, il a invité des gens qu'il aimait bien, manifestement. Et du coup, j'étais trop flatté d'être invité. Donc, pour fêter ses 6 millions d'abonnés, c'est ça, sur YouTube, si j'ai bien compris. J'étais de super content. Et donc, au début, je lui ai même demandé s'il était sûr que c'était que c'était bien moi qui voulais inviter. Et non, 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 il voulait m'inviter. Et ouais, j'étais flatté parce qu'il a invité plein de gens, mais quand même pas 6 milliards de personnes. Et donc, c'est sûr. Alors, Julo, bonne question. Je crois que c'est sur sa chaîne YouTube, mais en live, vendredi matin. Sachant qu'il lance un truc de 3 jours. C'est ça, hein? Ouais. Il y a Nico Manga qui valide. C'est sur la chaîne YouTube d'Inoxtag. Donc, ça commence jeudi. Et moi, je serai vendredi de 9h30 à 10h30 sur sa chaîne. Pour faire quoi? Ben, c'est ça qui est drôle. Une revue de presse. Donc j'ai demandé à Inox, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on et pour répondre à la question de Ribon TV à l'instant dans le chat, ouais, en fait, il m'a dit, bah écoute, amène-moi des articles. Il m'a dit, je suis pas du tout l'actualité. Je pense qu'il est assez occupé par ailleurs. C'est assez impressionnant, hein, ce qu'il a déjà fait à son âge, quoi. Il m'a dit, viens me raconter l'actualité, on va passer un bon moment. Je dis, yes, super, voilà. Donc ça, c'est vendredi matin. Pour le coup, c'est sur YouTube. Et puis, et voilà. Et vendredi soir, bien sûr, l'Hebdo Étienne avec une belle line-up, puisque pour cette 22e émission, quand même, de l'Hebdo Étienne, dans laquelle on revient sur l'actualité de la semaine avec 3 invités, eh bien, on recevra l'ami Ponce pour la première fois dans l'Hebdo Étienne, l'ami Jean Massier, qui est un pilier de cette émission, et j'en suis super content, et l'ami Constance Villanova, qui est une jeune journaliste indépendante, qui est juste géniale aussi. Donc, on va se régaler. Je voudrais remercier plein de gens. D'abord, comment commencer un stream sur les chapeaux de roue? Eh bien, avec un joli raid des amis de Naotech. Voilà. On parlait de YouTube et Twitch. Ben, voilà une très belle chaîne sur l'actualité de la tech sur YouTube et sur Twitch. Qui animait le stream ce matin? Est-ce que c'était Jérôme? Parce que je sais qu'il n'y a pas que Jérôme. En tout cas, ben voilà, j'ai vu un joli raid. Là, vous étiez très très nombreux à nous rejoindre. Pendant le générique du début, la petite musique d'attente, c'est très très agréable quand même. Merci. C'était Jérôme? Ah, super. Voilà. Et je sais que vous êtes très très nombreux de la chaîne de Jérôme. Vous avez parlé de quoi ce matin? J'ai vu que quelqu'un m'en avait parlé. C'était pas un rapport avec l'écologie ou l'environnement. Hein, de quoi vous avez parlé avec Jérôme? Ah voilà, climat et sobriété. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Donc merci pour le raid, ça m'a fait bien plaisir. Je remercie aussi les subs de bon matin. C'est grâce à vous que je peux passer du temps ici. Donc merci à Dexit pour ce 18e mois consécutif d'abonnement quand même. C'est super gentil. À l'instant, Nebjis pour un 6e mois, merci beaucoup. Poisson Pané Live, je suis heureux de revoir ton pseudo. 18 mois consécutifs d'abonnement, merci beaucoup. Hein, je ne suis pas surpris qu'avec Jérôme, vous ayez parlé sans doute de Facebook et d'Insta qui pourraient devenir payants. Pour être précis, la certification, hein. D'Instagram et de Facebook qui pourraient devenir payants. Tiens, vous en avez dit quoi d'ailleurs? Alors, un, est-ce que vous avez parlé de cette certification qui deviendrait payante pour Facebook et Instagram? C'est pas encore en France, mais je crois que c'est déjà en Amérique du Nord, c'est ça? Un, est-ce que vous en avez parlé? Et deux, vous en avez pensé quoi? Et Jérôme, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Ça m'intéresse, tiens. Cyrielle, je ne savais pas. Ouais, on en a parlé ce matin sur France Info d'ailleurs dans la matinale. De cette certification payante annoncée pour Facebook et Instagram. Voilà, certification. Vous en avez parlé? Broubrou me dit que qu'à Naotech, vu leur taf, ils vont payer pour la certification, justement. Ok, d'accord, c'est intéressant. Ouais. J'étais en train de remercier les subs. Lupix, merci pour le 7e mois d'abonnement. Hello Sam, à quand le prochain stream Musée Culture? Bah écoute, c'est tellement gentiment demandé que je vais te dire. Je vais pas encore t'annoncer le très beau musée qui sera concerné, mais le. Je vous donne la date, hein, je l'ai jamais dit encore. Le prochain stream musée avec un invité exceptionnel. Et il y a un indice dans le exceptionnel. exceptionnel. C'est, je vais vous dire, parce que j'en ai deux. J'ai deux streams musique qui sont calés. La date pour ce prochain musée qui est juste génial avec une exposition temporaire de fou. Ouais, je l'ai là. C'est le 20. Non, ça. Non. Alors, j'ai un doute. J'ai un doute. Je me demande si j'ai pas calé genre deux musées sur la même date. Non, tout va bien. Je me demande si j'ai pas calé deux musées sur la même date. Non, c'est bon. C'est bon. Ouf. Ok. Ouf. Ok, vous êtes prêts? Le prochain stream musée avec un invité exceptionnel, c'est le 22 avril. Et c'est un samedi, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et il y aura un mois après un autre stream dans un autre musée, voilà, aux alentours du 27 mai. Voilà, on finit la saison en beauté avec un joli stream musée. 22 avril, vous allez vraiment marquer cette date parce que ça va être magnifique. Voilà. Et un mois plus tard, le 27 mai, je crois, pour un nouveau musée. Voilà. Et donc sur le premier musée, invité exceptionnel. L'identité de cet invité est dans le qualificatif. Ceux qui connaissent son univers savent de qui je parle. Exceptionnel! Ce stream est exceptionnel avec des invités exceptionnels. Normalement, vous avez deviné. Alexiage, merci pour ce 8e mois d'abonnement. Synapse, j'espère que je prononce bien. En tout cas, il y a un joli 5. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Voilà, Solal, 3 ans, depuis quelques jours, qui vient d'entrer. Tu veux que je mette les lunettes à toi? Parce qu'il y a du soleil? Elles sont belles. Bien sûr, je te les prête. Yes, of course. Je te les prête. Tu veux les mettre? Quelle couleur elles sont? Elles sont bleues ou elles sont vertes? Elles sont bleues? Ok, comment tu dis en anglais? Comment tu dis en anglais? Bleu en français et en anglais? Yes, blue. C'est bien, mon chéri. Tu vas dehors? Donc tu mets tes lunettes, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de soleil, oui. Je t'aime. Et merci pour les ballons. Merci pour les ballons. C'est gentil. Je t'aime. Alors pour les nouveaux, quand les enfants débarquent ici, c'est cool de les entendre et participer à leur joie de vivre. Mais on les expose pas, bien sûr. Je comprends toujours pas trop certains influenceurs, influenceuses qui... mettre en scène et en avant les enfants qui évidemment ne sont pas en âge de décider s'ils veulent être exposés ou pas. C'est toujours un petit souci avec ça. Et donc on essaie de pas montrer les enfants ici, d'où cette scène d'alerte qui a été préparée par notre graphiste et artiste préféré, la streameuse Pépipin. Voilà, le grand, très relatif, avec les cheveux gris, c'est moi. Le petit en rouge, c'est Solal qui vient de rentrer dans la pièce et qui est parti se promener avec son Pikachu. Je n'ai pas un enfant Pikachu, c'est un Pikachu, un vrai Pikachu. Et au milieu, bah, c'est Malo qui est en vacances chez sa grand-mère. Voilà. Je vous parlais de ballon, c'est la fête. L'adorable petit Solal, hein, qui vient de me demander s'il pouvait m'emprunter une paire de lunettes de soleil. Ce qui est très drôle, sachant que c'est pas à moi, mais c'est à son grand frère. Juste avant que je lance le stream, il est trop mignon. Il est vraiment adorable. Il est venu dans la pièce, cette pièce, ce petit bureau qui me sert de stream, pour deux choses. D'abord, moi, s'il avait le droit de toucher à la table de mixage, où il y a plein de petits pads qui font de la musique rigolote, voilà, donc je n'ai pas de soucis, donc le stream était lancé. Il est venu avec ses ballons, et il me les a ici, il m'a dit, papa, c'est pour toi, voilà. C'est pour ton stream, je crois, il a dit, voilà. Cela, il vient de fêter ses 3 ans, il est né un 12 février, voilà, donc on a fait... un gros anniversaire thème dinosaure. Je sais pas si ça se voit. Il y a des dinosaures partout dans la maison, c'est trop mignon. Hélène lui a fait une belle fête d'anniversaire dinosaure. Il y a des dinosaures de partout. Voilà. Je pousse les ballons parce qu'on va parler de choses sérieuses. On va parler notamment de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Donc, je pense que les ballons dinosaures, c'est cool en vrai, mais... peut-être pas sur toutes les thématiques, quoi. Pardon, le propos est un peu haché, mais j'ai plein de trucs à vous raconter. Je continue à remercier les subs. Foftouille, merci tout à l'heure pour le... What? 16e mois? Waouh, ça passe vite. Sophie K 59, les fidèles sont là, merci pour le 11e mois. Merci encore aux amis de Naotech pour le raid. Sœur Jenki a été dans les tout premiers à sub ce matin, 15 mois, et merci pour les gentils messages qui m'ont touché. Je remonte sur les derniers subs. Merci Raoul Merguez TV d'avoir lâché ton prime. Moi je la prendrai pas trop cuite, s'il te plaît. La merguez. DAU88, merci pour le 12e mois d'abonnement. Merci pour le petit message. Loloun2, merci pour le 14e mois d'abonnement. Fouteuse03, tu es là. Merci pour l'offre. L'abonnement que tu offres à la commu. Orpheline, merci pour les bits. Frisquetosaur. Tiens, on parlait de dinosaures. Merci pour le gentil message. Le 8e mois d'abonnement. Gentil scorpion. Oui, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a des gentils scorpions. Chemical What the Fuck. 18 mois d'abonnement. Donc un badge en forme de grain de café pour toi aussi. Hot Tricks, merci pour le prime. French Hugo, merci pour le. Pour l'abonnement. Neoxys, merci de votre soutien ce matin. Vous êtes super. Merci d'être là. Merci. Neoxys pour l'abonnement. T-Bay, merci pour le 18e mois d'abonnement. Nebjis, Dexit. Merci, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Il y a Naotech qui a posté un message. Merci, Julo, d'avoir remis le message en avant parce que je l'avais raté. À propos de l'intérêt de la certification, vous savez que de plus en plus de comptes vont nous proposer, enfin de réseaux sociaux, Twitter, et voilà que Facebook et Instagram s'y mettent, hein, via l'annonce du groupe Meta. Et donc, est-ce que c'est intéressant? Les amis de Naotech nous disent que la certif payante, c'est bien pour une utilisation professionnelle des réseaux sociaux, et ça ne concerne pas le grand public. Ok, d'accord. Je pense que je vais devoir demander l'éclairage de nos amis de Naotech, et notamment de Jérôme dans les prochains jours, si jamais à un moment on se rend compte que, malgré moi, la certif que j'ai sur mon compte Twitter, par exemple, qui est une certif liée aux personnalités, si jamais cette certif saute, on verra s'il est intéressant ou pas de prendre cet abonnement, quoi. Donc, j'en parlerai sans doute avec les amis de Jérôme. Merci Mme Guanag. Faites-moi penser à virer les ballons quand on parlera de l'Ukraine. Pour le 9e mois d'abonnement, AK Couteau, merci pour ton prime. Voilà. Je vais vous faire un petit sommaire dans un instant des journaux de ce matin. En tout cas, je suis très content de vous. Oh, les amis sont là. Merci Pépin. Merci aux amis de Pépin. Pépin, on a parlé à l'instant de ton travail puisque Solal est rentré dans la pièce et on a eu l'occasion de mettre le raid qu'on vient de recevoir. C'est Pépipin. C'est l'artiste, la streameuse dont je vous parlais. Voilà. C'est elle qui a signé cette alerte enfant que vous avez vue tout à l'heure quand Solal est rentré. Pépin, merci. Il y a quelques minutes, on a reçu un joli raid de Naotech, la chaîne d'info sur toute l'actualité de la tech. Et je vous dis, c'est bien agréable de commencer un stream comme ça, soutenu par les amis. Et vous êtes très nombreux aussi à arriver avec Pépin. Vous avez, allez voir la chaîne de Pépipin si vous ne connaissez pas. Vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de léchage de globes oculaires, c'est ça? Ne faites pas attention, ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc de Pépin. Mais vous avez parlé de quoi? Ou vous avez dessiné quoi ensemble d'ailleurs? Merci Linkorep pour le 2e mois d'abonnement. Merci Pépipin pour le 15e mois d'abonnement. Dites-moi de quoi vous avez parlé avec Pépin, ça m'intéresse. Alors, juste avant de savoir de quoi vous avez parlé avec Pépin, un mot de la certification là. En fait, l'annonce de la certification payante pour Instagram et Facebook est tombée il n'y a pas très très longtemps. Donc c'était pas dans la presse écrite de ce matin, mais je suis sûr que j'aurai des articles demain à vous lire là-dessus, sinon même dans l'édition du Monde qui va paraître tout à l'heure. En tout cas, je me mets ça dans un coin de la tête et on en parlera sans doute demain matin. J'ai besoin de biscuits, comme d'habitude, d'articles pour réfléchir un petit peu et commencer à en parler avec vous. Alors, vous avez parlé de Madeleine et de moutarde, mais je sais ça. J'avais vu une vidéo où l'ami Joe, accompagné de Pépin, avait goûté les madeleines trempées dans la moutarde. Hein. On ne sait pas que lécher les globes oculaires, on mange aussi des madeleines à la moutarde. J'avais vu ça et il avait semblé aimer ça. Alors, je ne sais pas si c'était pour te faire plaisir ou s'il avait vraiment aimé ça. Mais il avait semblé aimer ça. On a parlé de nourriture, me dit Pépin, et des environnements qui nous faisaient du bien. Ah, cool. La mer, la forêt, la montagne. Ah, génial. Bon, à mon avis, c'est le stream qui fait le plus de bien à la tête. Le stream de Pépipin, n'hésitez pas à aller voir. Oui, vendredi matin, je serai accompagné d'Inox. En fait, je serai sur la chaîne d'Inox. Je serai Sean Levy, je serai sur la chaîne d'Inox, la chaîne YouTube d'Inox, vendredi matin, 9h30, 10h30, dans ces 3 jours de fête organisés par Inox et ses amis pour fêter ses 6 millions d'abonnés sur YouTube, quoi. Je suis très très content de cette aventure. On se donne rendez-vous vendredi matin. Je vous lis un petit peu. Ça fait 20 minutes qu'on a lancé ce stream, et puis il va être temps de faire un petit sommaire. Ouais, Footo03, il faut que je relance l'éditeur du jeu, effectivement, parce que tu n'es pas la seule à me dire que certaines boîtes n'avaient pas été envoyées. Je m'en occupe, je m'en occupe. Oui, c'était l'anniversaire de Solal qui a fêté ses 3 ans. Je vais les enlever, les dinosaures en ballon, là, parce qu'on va parler de choses sérieuses quand même, et je veux pas. On veut pas qu'on se retrouve sur Internet avec des clips de Papy Sam annonçant des horreurs, notamment sur l'actualité ukrainienne, avec des ballons dinosaures derrière lui, ça ferait quand même super bizarre, quoi. Merci Tilk d'ailleurs pour le petit avertissement. Ouais. Oui, ils sont gentils les dinosaures, mais oui, mais bon, mais quand même. C'est pas une raison, quoi. C'est pas une raison. À propos de réseaux sociaux, puisque poussez-vous les dinosaures là. À propos de réseaux sociaux. Et puisque on va sûrement parler demain de l'histoire de la certification, oui, certification payante d'Instagram et de Facebook, ça c'est sûr. Il y aura les articles. Sachez que j'ai désormais un compte TikTok.
Oui.
Vous savez peut-être que je suis très actif, surtout sur Twitter, qui est pour un journaliste un vrai outil d'information. Bon, il faut ça. Évidemment, il faut savoir quel compte on suit. Et il faut savoir faire la part des choses. Et notamment mettre de côté l'ultra-violence qu'il peut y avoir parfois dans les échanges sur Twitter, mais en vrai, c'est un vrai outil d'information très intéressant. Mais effectivement, comme Julot très gentiment vient de le faire, si vous tapez point d'exclamation Samuel dans le chat, vous avez mes réseaux sociaux, mon compte Twitter, voilà, mon compte Instagram. Je n'ai toujours pas très bien compris Instagram, et je suis plus un vieux monsieur des mots qu'un monsieur de l'image. Mais donc du coup, Insta, c'est voilà. Mais j'ai un compte Instagram qui est très bien géré par Joe, et j'ai un compte TikTok. J'ai un compte TikTok. Alors c'est très bizarre parce que le compte il a genre 15 jours, et on y poste des petites vidéos en fait qui viennent de l'hebdo Étienne, l'émission du vendredi. Voilà, des petits montages. Voilà, c'est fait par une jeune femme très sympathique, une monteuse, qui regarde l'émission le vendredi avec nous, et puis qui balance des extraits. Et c'est fou en fait, parce que donc par exemple, là, il y a une vidéo sur où j'explique vendredi comment j'ai fait pour qu'il y ait plus de candidates femmes à Question pour un champion, qui a été un des petits combats que j'ai mené. Oui, c'est Iris. Julot, tu as raison. La monteuse, eh bien cette vidéo, en quelques heures, elle a fait 300 000 vues sur TikTok, ce qui est rigolo, voilà. Et alors, je me suis dit, oui, mais les vues, qu'est-ce que ça veut dire les vues est-ce que les vues de TikTok, est-ce que c'est pas un peu, est-ce que c'est vraiment des vues, vous voyez? Et en fait, non, j'étais un peu surpris. Il y avait plus de 300 et quelques messages de gens qui écrivaient, qui commentaient en fait ce truc. Et donc, c'est assez étonnant en fait TikTok. Hein. Voilà, donc un compte qui a 15 jours, voilà, et qui voilà, et qui et qui où il se passe quelque chose d'intéressant. Et alors c'est du coup c'est pas pour le coup autant j'ai toujours pas compris Instagram, autant je suis très très Twitter. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans TikTok, qui est ce média de l'image sur un format extrêmement court et un public qui est touché, qui est un public qui est assez jeune. Nightbot, il faudrait ajouter un espace après l'espace pour que l'adresse soit cliquable. Ah. Ah, ça marche pas? Attendez, on va faire le test. Peut-être que je modifie un truc. Et je vais vous dire pourquoi je suis sur TikTok et je vais vous dire quel projet j'ai éventuellement sur TikTok. Si je tape sur TikTok là. Bah si, ça s'ouvre. Alors, moi j'ai cliqué sur le lien TikTok, ça s'ouvre. Le lien Instagram, il s'ouvre. Et le compte Twitter, il s'ouvre aussi. Alors, je sais pas, quelqu'un me disait. Qu'il fallait que je rajoute un espace. Moi, je clique sur les 3 liens proposés par Nightbot et les 3 s'ouvrent en fait. Là, j'ai Twitter, Insta et TikTok sous les yeux qui sont ouverts. Voilà. Ça marche chez vous aussi? Est-ce que quand vous tapez point d'exclamation Samuel dans le chat et que vous cliquez sur les liens, est-ce que ça s'ouvre? Sur un grand moment de promotion là. Ça marche? Oui, ça marche. Ah, pas sur mobile. Ah oui, je vois. Il manque. Ah, ce serait plus joli. Et peut-être que sur mobile ça marche pas. Ok. Ok, je vois, il manque un espace. Ok. Ah, c'est sur le téléphone. Vous savez quoi? Ben, je vais le faire en direct. Parce que qui gère Nightbot, c'est moi. Je suis devenu le roi de Nightbot. Voilà. Ah, c'est moi qui fais les petits trucs sur Nightbot. J'aime bien. J'ai mis près de 2 ans à comprendre le truc. Donc, je suis pas peu fier. Et donc, je vais vous modifier ça tout de suite. On login, bam. On login avec Twitch, bam, 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 bam. On est sur les commandes custom. Bim, 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 bim. Je suis malade. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Samuel, modifié. Tac, tac. Et effectivement, il manque peut-être un espace. Ah, je vois. Ici. Ici. Il manque un petit espace ici. Et hop là. Et vous savez quoi? Submit. Voilà. Faites l'essai. Un petit point d'exclamation, Samuel. Hop! Non, je ne suis pas super beau, super bronzé, je suis super fatigué. Et quand je suis fatigué, je suis bronzé. C'est super bizarre. Alors, est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que c'est plus joli? Regardez, je pense que c'est bon. Alors, ça marche? Hein? C'est propre? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Alors, pourquoi TikTok? Le propos est particulièrement décousu ce matin, je m'en excuse, mais j'adore ça. Partir dans tous les sens. Parce qu'en fait, je trouve que. Il y a deux choses intéressantes dans TikTok. Il y a le côté l'obligation à faire court, hein, c'est bon, qui est une contrainte intéressante, qui est exactement l'inverse de ce que je viens chercher ici, puisque sur Twitch on a le temps, y compris de faire des introductions qui durent 1 heure, comme ici. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça oblige à condenser sa pensée, à aller à l'essentiel, à l'efficacité, quoi. Donc j'aime bien ça, et le côté très visuel aussi. Et puis le public, puisque toutes les statistiques s'accordent à dire que eh bien, de tous les réseaux sociaux, c'est clairement TikTok qui a le public le plus jeune. Voilà. Or, ben, je trouve intéressant de parler à ce public, voilà, plus jeune, éventuellement pour les intéresser à mes trucs de vieux, les journaux, l'actualité, tout ça, quoi. Voilà. Donc une réflexion où je me dis, ben, qu'est-ce que je pourrais proposer sur TikTok en contenu sérieux, hein, j'ai pas prévu super de danser. Pas sûr de faire beaucoup de vues avec mes chorégraphies, d'autant que le corps est en train de me lâcher doucement quand même, donc a priori pas de choré, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit format d'info imaginé, bien court, bien efficace, voilà, à partir par exemple de la presse, hein, du matin, puisque je la lis tous les jours pour moi, pour mon plaisir, et ensuite pour la partager avec vous, donc on peut en faire 3 heures de stream, mais on peut peut-être en faire 1 minute tous les matins, quoi. Je sais pas, vous en pensez quoi? Donnez-moi votre avis, et on est parti pour le sommaire après. Weekend à Rome me dit tu es hyper connecté, je n'irai pas sur TikTok, ma fille de 15 ans me saoule trop avec ses chorégraphies. Il faut surtout accrocher très rapidement le contenu. Lui peut être long. Voilà. Ok. Alors en mode Hugo Décrypte me dit Will Salad, alors c'est vrai que quand j'en ai parlé hier, les gens m'ont dit ah mais Hugo Décrypte il le fait sur TikTok. Bah, je suis allé voir, bah oui, effectivement, j'ai vu qu'il proposait des petits produits d'info très très courts en 1 minute. Voilà, des résumés de l'actu de la journée, les 5 infos sympas de la journée ou de la semaine, voilà. Ouais, donc en vrai, ouais, il a déjà un petit peu sur ce créneau, c'est très très bien fait, son truc, c'est cool. Ouais. Alors moi, je ferais pas ça, je ferais autre chose, mais je partirais plus de la presse écrite, puisque c'est un petit peu ce que j'aime, ma petite expertise à moi. Mais ouais, c'est bien ce qu'il fait Hugo, carrément, quoi. Bonne idée. Ah, vous validez, globalement, c'est cool. C'est peut-être 1 minute de vidéo, mais ça prendra bien plus de temps à faire. Bah oui, El Pierrot, bien sûr, bien sûr. Bah c'est comme quand je vous lis les journaux, au moment où je lance le stream, en général, il y a 3 petites heures de lecture avant, quoi. Ça, tu ne fais pas ça, quoi. Du coup, j'ai un peu. Voilà, comme j'ai toujours pas compris Instagram, je pense que je vais directement passer de Twitter à TikTok, quoi. Il y a de plus en plus de trucs intéressants sur TikTok. Hein. En fait, les réseaux sociaux, c'est jamais qu'un outil. Hein. Donc, il y a des trucs nazes, il y a des trucs super. Il faut juste trouver les bons trucs, quoi. Coulactron écrit une revue de presse en 1 minute peut être sympa. D'abord 5-10 secondes avec les grands titres, puis un peu plus d'infos sur les unes. Ouais. On va essayer de bosser là-dessus. Pas avant septembre. Hein. Pas avant septembre ou pas avant le mois d'août, puisque là, je finis ma saison qui est un petit peu chargée, comme vous le savez. Et voilà, ça, c'est objectif août-septembre. Septembre, ça va être énorme, septembre. Septembre, ça va être énorme. Plein de nouvelles choses. Avec beaucoup plus de temps, a priori, passé sur Twitch. À partir de septembre, on verra. On verra. Sauf énorme rebondissement. Voilà. Bon, en tout cas, merci. C'est super agréable d'échanger avec vous. Je pense que le mot échange, d'ailleurs, c'est ce qui caractérise le plus, ce qui résumerait le plus Twitch. Échange. Ben, je trouve, moi. Je trouve ça incroyable. On peut partir sur n'importe quel sujet. Et on arrive à quelque chose d'intéressant. Hein, là, on est à presque 3000, et donc on lance une idée. Et il y a toujours des gens qui ont des avis intéressants sur quelque chose, et on le partage, on est ensemble, et on est du coup on est super intelligent. Collectivement, j'entends. Moi, non, mais collectivement, ouais, j'adore ça. J'adore. Partage aussi. Ouais. Linkorep écrit, c'est en ça que c'est mon réseau préféré. On a un contact direct, carrément, carrément. Hello, ça, regardez, regardez, c'est formidable. J'ai même du coaching là. Nawal Paris, Hello Samuel, les TikTokers qui se démarquent ont un concept ou une patte. Il faudra un truc nouveau qui te caractérise, toi et ton compte TikTok. Bah, déjà, mettre en avant sur un réseau social de jeunes la presse écrite de vieux, à la base, c'est un concept. Hein. Après, je vais pas me réinventer. Moi, ce que je kiffe, c'est. Moi, je suis pas très info télé, même si j'en vis. Hein. Mais c'est plutôt la presse écrite, donc je vais rester un peu sur mes fondamentaux, quoi. Après, faut trouver une écriture. Je suis pas sûr de trouver une écriture pertinente, mais non, le signe astrologique chaque jour, ça va aller. Non, l'horoscope, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Il faudrait que quelqu'un fasse des clips et publie. Oh non, Cyril, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça maison. On va faire ça artisanal, bien crado, avec une lumière un peu pourrie. J'ai vraiment envie de le faire tout seul, ce truc-là. C'est bien aussi de faire les trucs tout seul. Hein. Rappelez-vous mes visuels d'annonce. Alors ça s'est un peu amélioré parce qu'on récemment, mais rappelez-vous mes visuels tout pourris d'annonces de stream là où les gens se moquaient et tout. C'est bien de faire soi-même aussi. Mais ça va te prendre beaucoup de temps. Mais oui, mais c'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Comme ça, je vais dormir encore un petit peu, moi. Voilà. Bon, allez. Et si on faisait un petit sommaire? Je vais remercier les derniers subs et je vais vous proposer un petit sommaire parce qu'il est temps de parler un petit peu d'informations quand même et de journaux. Parce que c'est pas parce que certains en vacances qu'il n'y a pas les journaux et les choses assez intéressantes. Posset Pack, merci pour le Prime. Zorclub04, merci pour le 4e mois d'abonnement. Creatix, merci pour le 16e mois d'abonnement. Fafarage, merci pour le Prime. Mister Mayhem, TC, merci pour le Prime. Et Linkorep, merci pour le 2e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Est-ce que vous êtes prêt pour un petit sommaire? Voilà. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on commence par un petit sommaire. Je vous donne l'essentiel des titres, des unes, des journaux en 5 minutes, 10 minutes. Merci beaucoup Roctali pour ce 18e mois d'abonnement et Gojirage17 pour ce 7e mois d'abonnement. Et après, on lit les journaux pendant 2-3 heures. À la cool. Vous êtes prêts? Je vois des let's go. Je vois un go sommaire. Donc, je vois. C'est marrant parce que OBS me dit, notamment ceux qui sont avec moi et qui viennent de Nowtech et de Pépipin, et ça me fait plaisir de voir qu'on partage comme ça des viewers. Les ballons sont partis, on peut y aller alors. Frenchy dit, est-ce qu'on va parler de l'anniversaire de la guerre en Ukraine? Même si le mot anniversaire paraît peu approprié, c'est vrai que c'est exactement ça, effectivement. Vendredi, on sera le 24, ça fera pile un an que la guerre en Ukraine a débuté. Et vous savez quoi? Dans les journaux, c'est extrêmement présent dès aujourd'hui et ça va l'être toute la semaine. D'ailleurs, la matinale de France Info va être colorée, très colorée, Ukraine cette semaine, pour évoquer ce triste anniversaire, un an déjà de guerre. C'est-à-dire que vendredi, l'Ukraine entre dans une deuxième année de conflit. La question est de savoir combien ça va durer, bien sûr. Et par exemple, dans la matinale de France Info sur le canal 27, on a deux invités tous les matins, à 7h et à 8h, pour parler de cette guerre en Ukraine. Et c'était très très fort ce matin, par exemple, à 7h, on avait un photo journaliste, donc un photo reporter qui couvre les guerres, les conflits depuis des décennies. Hein. Il a commencé son métier il y a longtemps et qui a passé 3 mois en Ukraine au début de la guerre et qui est venu témoigner et parler de clichés qu'il avait pris et nous parler des gens pour entrer dans l'intimité de ceux qui vivent ce conflit. Nous, on le vit de loin, hein, à travers les images et les journaux. Et il était extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Et puis à 8h, on a eu, je vois que Anna Bananas l'a vu aussi, Sefre aussi, certains ont vu ses invités. À 8h, on avait une étudiante ukrainienne, francophile, qui parlait un français parfait, qui m'a totalement bluffé, toute jeune, et qui a parlé aussi de, bah de, voilà, de sa vie au quotidien en tant qu'étudiante, en tant que membre d'une famille, voilà, de son vécu de la guerre. Et c'était extrêmement fort, ça devenait subitement très très concret, très très réel. Et on va faire ça toute la semaine dans la matinale de France Info. Bravo à toute l'équipe parce que en vrai c'est super quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour le sommaire. Ok. Ouais, c'est vrai qu'elle parlait étonnamment bien français, c'était incroyable. Ouais. En parlant de Twitch, j'ai vu que Thierry Moreau s'y est mis. Benoît, oh, il s'y est mis il y a longtemps, Thierry, mais c'est juste qu'il a fait une pause en fait. Mais Thierry, il a lancé sa chaîne Twitch il y a un moment déjà. Allez, c'est parti. Prêt? Allez, go pour le sommaire. On allume donc la caméra zénitale, puisque aujourd'hui, les journaux sont en version papier. Le week-end, souvent, je les télécharge sur ma tablette, mais là, on est à l'ancienne et j'aime. Alors, vous n'avez pas l'odeur. Vous n'avez pas l'odeur. Mais ça sent très très bon, un journal papier, mais vous avez quand même. Voilà. Rien que ça. Moi, je crois que je suis devenu journaliste pour pouvoir passer ma vie à lire les journaux papier. Donc, allez, petit sommaire, c'est parti. Beaucoup d'Ukraine cette semaine dans vos journaux, mais je vous ai mis un ou deux papiers de côté. Et je vous ai mis plein d'autres articles, bien sûr, dessus. La une du Parisien, elle est très très forte. Viol, torture, enfants déportés, la guerre sale de Poutine. 70 000 enquêtes pour crimes de guerre sont ouvertes en Ukraine. Elles révèlent la brutalité du conflit, la cruauté des soldats de l'armée russe. Même les enfants sont pris pour cible. Je vous lirai un extrait de l'article et de l'éditorial sur cette guerre sale de Poutine. C'est la une du Parisien ce matin. Libération, numéro spécial également. Voilà, à quelques jours de ces 12 mois de conflit, le Libé des Ukrainiens, c'est Libération qui donne la parole aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes. Un an après le début de la guerre, volontaires, réfugiés, soldats, civils, politiques, artistes, racontent l'horreur, racontent la peur, racontent leurs espoirs aussi, plongés intimes et politiques dans les 1001 visages de ce conflit. Et alors j'ai lu avec attention ce numéro spécial de Libération ce matin, et je vous ai mis de côté notamment un entretien qui est très très fort avec le maire de Kiev, la capitale, l'ancien champion de boxe Vitali Klitschko, pardon. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement fort ce qu'il dit. Voilà. Il se dit notamment convaincu de la victoire de son pays. Ça, tous les Ukrainiens le disent. Hein, c'est ce que disait notamment la jeune étudiante qu'on a interviewée en direct de Kiev ce matin. Clé de la paix et de la liberté en Europe. Ce qu'il dit notamment, c'est que en aidant l'Ukraine, on cède, nous aussi, Européens, en refusant à Vladimir Poutine et à l'armée russe la possibilité d'envahir l'Ukraine, bien sûr. Donc on lira ça, c'est hyper fort. Hein, c'est aussi mon travail de sélection, je ne vous lis pas tout, mais je vous lis ce qui me semble le plus neuf, le plus nouveau par rapport à ce qu'on a lu, les jours précédents, ou de plus fort. La Une du Figaro est également consacrée à ces 12 mois de guerre en Ukraine. Alors, avec un angle assez intéressant, en fait, c'est un sondage, une enquête d'opinion sur au niveau européen. Que pensent les opinions européennes? Mais tous les pays européens, Pologne, Allemagne, Grande-Bretagne, France, de ce conflit, quel est le soutien des populations françaises, polonaises, britanniques, allemandes, espagnoles, quel est le soutien aux Ukrainiens? Quel est le soutien à l'armement des Ukrainiens via leur pays? Eh bien, en fait, les opinions publiques européennes ne sont pas toutes du même avis. Voilà. Et par exemple, il y a des pays qui soutiennent à 2000% l'Ukraine, comme la Pologne, par exemple. Sans doute parce que la proximité géographique fait qu'il peut y avoir de l'inquiétude aussi des Polonais par rapport aux voisins russes. Et puis il y a des pays qui soutiennent moins fortement, comme la France par exemple. Voilà, on verra, on lira ça, c'est assez intéressant aussi. Salut Cacamouette, merci pour ce gentil message. Il y a Cacamouette qui écrit « Bonjour, depuis le temps que je voulais passer ici ». Cacamouette, si je peux me permettre, c'est un joli pseudo. Donc voilà pour ces trois articles intéressants qu'on lira sur la guerre en Ukraine. Sachant que mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin avec Inoxtag, on parlera sans doute de la guerre en Ukraine aussi. Je vais fermer la porte là parce que mon petit solal a ouvert, juste pour les économies d'énergie. Et je continue le sommaire puisqu'on est dans le sommaire. Oui, je sais, parler de la guerre en Ukraine avec Inox, c'est concept. Eh ben, c'est très très bien. Eh ben, c'est très très bien. Vendredi matin, 9h30, 10h30, sur sa chaîne YouTube. Techniquement, est-ce que ça fait pas 9 ans que l'Ukraine est en guerre? Dit-il que IG, là, tu parles de, notamment de ce qui s'est passé en Crimée en 2014. C'est le sentiment des Ukrainiens, effectivement, quoi. La une de la Croix, alors il y a que la Croix qui en parle ce matin, quasiment. Et pourtant, ça me semble essentiel, même si c'est un process qui est en cours, c'est ça. C'est pas un sujet léger, hein. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi en France sur la fin de vie, sur l'accompagnement de la fin de vie, sur ce qu'on appelle l'aide active à mourir, sur l'euthanasie? Vous voyez, c'est pas un sujet léger. Il y a une réflexion en France, il y a des gens qui disent que la loi actuelle, qui est la loi Claeys-Leonetti, qui encadre la fin de vie pour les gens qui souffrent notamment de maladies incurables, eh bien, cette loi est insuffisante. Et il faut la faire évoluer. Et il y a une convention citoyenne qui est en train de réfléchir à ça. Et la convention citoyenne là-dessus, elle vient de se réunir. Et elle s'est prononcée massivement hier, dimanche, en faveur d'une évolution de la loi. Voilà. Un pas de plus vers l'aide active à mourir. Alors c'est intéressant, hein. La Croix, c'est un journal chrétien, c'est un journal catholique. Alors vous imaginez bien que la notion de suicide assisté, d'euthanasie, pour des chrétiens, pour des catholiques, c'est... C'est un sujet qui est extrêmement sensible, mais La Croix est un journal de qualité qui, malgré ses convictions, arrive à parler du sujet, je trouve, avec distance et avec rigueur. Et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Donc là, c'est le vote de la Convention sur la fin de vie, voilà, mais qui va continuer en fait à échanger, voilà, avec des propositions finales qui seront remises à la fin du mois de mars au gouvernement. Et après, ce sera au gouvernement, aux politiques, aux parlementaires, de s'emparer ou pas de ce rapport et de faire évoluer ou pas l'accompagnement de la fin de vie en France. Voilà. Je regarde si je ne vous ai pas oublié un article au passage, parce que parfois ça m'arrive. Oh si, oui, si, si, si. En même temps, je suis content de l'avoir oublié, parce que c'est un petit peu léger. Rappelez-moi, je risque d'oublier tout à l'heure dans le Figaro, un truc un peu plus léger. Le culte du body. Bon, d'après le Figaro, les jeunes, je ne sais pas si vous êtes jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, seraient un petit peu en mode culte du corps, l'infatigable quête du muscle des générations Y et Z. Jeunes, adolescents sont de plus en plus nombreux à tout miser sur leur musculature et à l'exhiber sur les réseaux sociaux, véritables prescripteurs. Bon, on lira l'article. Est-ce que les jeunes sont effectivement un de plus en plus nombreux à, comme le dit le Figaro, tout miser sur leur musculature et exhiber sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un truc générationnel là-dessus? Est-ce que c'est pas vieux comme le monde? Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène de nouveauté? Bon, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. On lira l'article, vous me direz ce que vous en pensez. Sommaire toujours. Jeux vidéo. Je vous dis souvent que il y a deux journaux qui parlent plutôt bien de l'actualité des jeux vidéo. C'est enfin, il n'y a pas que, mais notamment le Figaro et les Échos. Qu'est-ce que je trouve ce matin dans les Échos? Une pleine page sur où en est le marché du jeu vidéo aujourd'hui en France. Le papier, pour un mec comme moi qui n'est pas un spécialiste, je le trouve vachement bien fait et passionnant. En perte de vitesse, les géants du jeu vidéo s'appuient sur leur titre phare. Voilà. En fait, le constat des Échos ce matin, c'est que les blockbusters des grands éditeurs de jeux vidéo se portent très très bien. Les chiffres donnent un petit peu le tournis, mais c'est peut-être au détriment des vraies nouveautés, voilà, qui ne trouvent pas forcément leur public, leur marché. Et puis un petit encadré sur le dernier jeu vidéo là, Harry Potter Hogwarts Legacy, qui cartonne, qui cartonne. Le succès est gigantesque, voilà. Donc il y a un papier à part sur ce jeu vidéo, malgré la polémique qu'on a déjà évoquée dans l'hebdo Étienne, par exemple. Polémique qui n'a manifestement absolument pas impacté les ventes de ce jeu vidéo. Certains diraient même au contraire. Donc une page dans les échos, 100% jeu vidéo. Vous allez voir, on va se régaler. Un régal, ce jeu dit pas pris, qui a peut-être joué à Hogwarts Legacy, et qui trouve que c'est mérité comme original. Pimousse l'écrit également dans le chat. Et puis, rapidement, on verra les résultats sportifs du week-end, parce que lundi, il y a une actu sportive chargée après les résultats du week-end. On verra un petit peu de biathlon, un petit peu de foot. Rapidement, on passera un petit peu les résultats. Sachez juste que parmi les résultats de foot du week-end, je suis horrible, parce qu'il y a Tilk qui a lu sauvé par étoile. Non, c'est pas Rayou qui a sauvé le PSG, ce sont les étoiles du PSG qui ont sauvé le club. Match complètement fou contre Lille, gagné 4-3 par les Parisiens contre les Lillois. Ça a été tendu. Mbappé doublé, Messi marqueur décisif toute fin du match dans le temps additionnel. Donc l'ami Rayou, l'ami étoile n'y est pour rien, mais les stars, oui. En revanche, une nouvelle blessure de Neymar qui assombrit un petit peu le tableau, en tout cas quand on est supporter du PSG. Voilà pour le sommaire, c'est pas mal hein, les trucs ce matin. Et le Stade Rennais, ils ont gagné 2-0 contre, je sais même plus contre qui ils ont joué. J'ai oublié. Alors, ça vous plaît? Pas mal, hein. Il y a des choses très sérieuses, choses un peu plus légères, avec des articles qui sont bien écrits. Clermont contre Clermont, ok. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on va faire ça, avec peut-être... En fausse ouverture, comme on dit dans notre jargon. Qu'est-ce que c'est une fausse ouverture dans un JT? Ça, c'est vraiment du jargon de journaliste télé. Imaginez, vous êtes dans un journal télévisé, de chaîne d'info ou 20h, vous avez les titres au début. Okay, les titres, c'est voilà de quoi on va vous parler, voici les infos importantes dont on va vous parler. Ce sont les titres. Mais parfois, au début du journal, le présentateur, la présentatrice va dire « Mais avant de développer ces titres, on voulait vous parler de... » Et on met une autre actu en avant. Quoi. Ça s'appelle une fausse ouverture. L'ouverture, c'est ce qui débute le JT. Et qu'on fait une fausse ouverture, c'est en haut du journal, le premier sujet, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué dans les titres. C'est un truc de rythme, c'est assez rigolo. Et bien, nous, on va faire une fausse ouverture. Voilà. Parce que là, je vais vous proposer de parler d'un truc qui n'est pas dans le sommaire et qui n'est pas dans les titres. C'est fou, hein. Ce stream devient exceptionnel. Est-ce que vous devinez d'ailleurs de quoi on va parler pour commencer? Ha ha! Ha ha! Alors c'est très drôle parce qu'il y a Sèvres qui écrit au passage RIP, Rest in Peace, Leiji Matsumoto, dont personne ne parle vraiment. Et bien c'est très drôle parce que la fausse ouverture, on va la consacrer justement au papa d'Albator. Voilà. Le créateur d'Albator qui vient de décéder. Voilà. Et en fait, cette fausse ouverture, on va la consacrer à ça. Voilà. Si vous êtes d'accord. Notamment parce que j'ai vu un bel article dans Le Monde. Et comme je suis abonné au Monde, on va pouvoir le lire. Voilà. Hop. Regardez. Je vous montre. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà ce qui s'est passé. Tac. Ce monsieur, Leiji Matsumoto, donc qui est le créateur japonais d'Albator, est mort. 85 ans. Alors, star mondiale des bandes dessinées japonaises, écrit Le Monde, merci pour tous les F, merci pour sa mémoire. L'un des chefs d'orchestre du Space Opera, il est connu en France notamment pour être le papa d'Albator. L'artiste a su relancer sa fin de carrière en collaborant avec le groupe Daft Punk. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un clip assez exceptionnel de Daft Punk. En fait, il avait été signé par Monsieur Matsumoto. Voilà. Et il y a plein d'articles pour lui rendre hommage ce matin. Si on va sur le compte Twitter de Papy Sam, bah voilà mon dernier tweet ce matin. Merci monsieur Leiji Matsumoto de nous avoir fait rêver, voilà, avec le corsaire de l'espace ici, Albator, qui moi était, il y a Foftouille dans le chat qui a écrit j'étais amoureux d'Albator, bah moi aussi un peu amoureux d'Albator, en tout cas moi j'étais totalement fasciné, c'était mon dessin animé préféré. Alors il y avait Goldorak à l'époque, il y avait Capitaine Flamme, il y avait plein de choses, mais pour moi ce personnage mystérieux, ténébreux, pirate de l'espace, avec ce vaisseau totalement incroyable, et puis voilà, je suis un petit garçon, donc c'est ce personnage féminin qui était les sylphides, je crois, ces êtres un peu végétaux là, assez fascinant. Le petit garçon que j'étais trouvait ça très intéressant. Bref, voilà, totalement fan d'Albator. Donc j'étais assez touché par ça ce matin. Effectivement, ça nous renvoie à un article du Monde qui venait d'être publié et que j'ai lu. Il est où l'article? Il est ici. Et que j'ai lu dans le taxi qui me ramenait à vous. Voilà. Ah, c'est les cils vidres. Ah oui, pas les cils fides, pardon, pardon. Ah, les cils vidres. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est très vieux. Alors moi, j'avais souvenir que c'était les cils fides, mais on me dit que c'est les cils vidres. Ah, c'est ça. Créature végétale d'apparence humaine et féminine dans l'univers. Moi, je découvre l'existence de la féminité par. Donc maintenant, je corrige, merci. Par les cils vidres d'Albator. Voilà. Ça ressemblait à ça pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des êtres. Voilà, des êtres féminins un peu végétaux, quoi, c'est ça? On va voir ce que c'est exactement, quoi. Voilà. Qui était très, très mystérieuse et. Voilà. Voilà. Ça ressemblait à ça. D'ailleurs, est-ce que ce serait fort bien qu'il y ait une page Wikipédia sur les sylvines. Ce serait super. Ah, il y a une liste des personnages d'Albator déjà. Ok. Viens trouver une petite page. Est-ce que c'est un peu développé? Non, c'est un petit peu court quand même. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus. Là, il y a un lien qui est intéressant. Voilà, c'est parti. Les Sylvidres, okay, apparaissent dans le manga Capitaine Albator. Il s'agit d'un peuple à l'apparence humaine, sauf que leur organisme est de nature végétale, chlorophyllien. Voilà. Moi, j'ai envie de dire militant écologiste avant l'heure. Faites pas attention, je suis fatigué. Leur peau est naturellement verte, mais dès qu'elles sont en contact avec l'atmosphère terrestre, leur peau devient blanche. Elles ont le sang vert, voilà. Donc elles avaient sans doute leur carte à Europe Écologie Les Verts. Je le fais exprès. Hein. Et s'enflamme dès qu'elle meurt. Ah oui, je me rappelle de ça. Les flammes qu'elle dégage sont bleu-vertes, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un phénomène similaire au feu follet qu'on voit dans les marais. Voilà. Ces flammes seraient dues à une émanation conjointe de méthane, CH4, et de phosphore. Elles ont colonisé la Terre. À l'époque, c'était très mystérieux. Moi, je ne comprenais pas très très bien si c'était des gentilles ou des méchantes. Bref. Et l'ont probablement terraformé longtemps avant l'apparition de l'homme sur Terre. Elles savaient que le soleil de leur planète d'origine allait un jour s'éteindre et comptaient migrer vers la Terre lorsque ce désastre se produirait. Les plus jeunes, là, surtout les meilleurs spécialistes que nous avons d'Albator dans ce chat, est-ce que vous pouvez m'expliquer clairement ce qu'étaient les cils vidres? Parce que moi, à l'époque, je n'avais pas bien compris, en fait. Est-ce qu'il y a des spécialistes avant de lire cet article du Monde? En tout cas, je vois qu'il y a des. Amateur d'Albator. La mumuzette, moi aussi amoureuse, j'ai gardé une fascination pour les têtes de mort pirates. Ah, je me rappelais pas de ça. Sandrine me dit qu'il avait un petit problème d'alcool, le pirate. Ah bon, Albator, il teasait un petit peu. Ok, d'accord. Voilà, mon père me mettait Albator quand j'étais petit. Un pur kiff, j'ai pris une claque en apprenant la nouvelle, me dit Sidam Régal. Alors, les Sylphines, Sylvine, est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent un petit peu? Fauve-touille, ayant le même âge que toi, j'en ai compris la même chose, donc pas grand-chose. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ah bon? Il y avait un de Dieu qui dit elles ont créé le moteur du vaisseau d'Albator. Ah bon? Tiens, Caligar, il n'y a pas que moi qui n'ai pas compris à l'époque. J'ai jamais compris qui elles étaient, elles me faisaient peur. My Little Trip, modo de cette chaîne, nous dit elles cherchent à envahir la Terre, donc ok, c'était pas cool donc, hein. Et elles ont envoyé de nombreux soldats pour infiltrer la planète bleue, ça c'est chez nous, hein, et préparer l'arrivée de la reine. Leur grande beauté leur permet de séduire les humains, ça a marché, moi j'étais totalement sous le charme. Et elles ont la particularité de mourir dans les flammes vertes lorsqu'elles sont tuées. Donc c'était des méchantes. Fauve-touille me dit ni gentille ni méchante. Ok. Ah, c'est cool! Il y a Sèvres qui nous précise, les Sylvidres étaient une race voulant envahir la Terre. Albator était le seul à l'avoir compris. Mais la Terre refusait de le voir, d'où son statut de criminel. Ah ouais. intéressant. On se fait un petit extrait. On essaie de se trouver un petit extrait. Une bande-annonce à Albator. Pour que ceux qui sont totalement perdus, qui ne savent pas de quoi on parle, nous rejoignent un petit peu dans notre délire de ce matin là. C'est bien parce qu'on a annoncé plein d'articles sur l'Ukraine, mais bon, on fait un petit pas de côté. Là, c'est autre chose, c'est le film Albator, le corsaire de l'espace. Mais je pense que ça peut nous faire une petite bande-annonce, peut-être introductive à l'univers. Je suis en train de vous caler ça. Ah, merci, Manitoul Trip. Tu viens de me mettre quoi là? Un petit lien. Attends, je me cale. On va se regarder ça, puis après, on va lire l'article du Monde. Ce stream va durer 15 heures. Ça va être génial. Qu'est-ce que tu m'as mis, My Little Trip, d'intéressant? Le générique? Ok, let's go. Pas trop longtemps, hein, ça doit être DMC à fond, ça. Hein. Let's go. Cool. Le pavillon noir et son drapeau. Il est trop beau. Bebop, Nausicaa sont avec toi. Albator, Albator, le corsaire de l'espace. Albator, le vaisseau quoi. C'est vrai qu'il était un peu froid. Mais en fait, ça n'a pas vieilli, mais c'est juste. C'était. Oh, son vaisseau. Son vaisseau. Ah, de beaux souvenirs d'enfance. Mais oui, je sais, je sais, je sais. Ah oui. Il y a Néphirim qui a encore le vinyle à la maison. Ah. Oh. Ben parfois, on voit des vieux trucs de l'enfance et on se dit « Ah, ça vieille !» Mais là, ça n'a pas vieilli. Vous savez quoi ? On va se faire un deuxième plaisir. On va se regarder la bande-annonce du film, maintenant. Voilà. Tchac. Bah, je crois que j'ai pas mis le son. Je crois même que je l'ai mis en japonais.
俺はハーロクにかけてみたい。100年にわたり外野産区所に背いてきた反逆者だ。必ず抹殺しろ。この船よ。私たちには自由を求めてアルカディア号に乗ったと言ったな。 それが本当なら自分を縛るものと戦え。今だ。それがどんなに危険なことか。これが最後の後悔だ。
Je l'ai pas vu. Et en plus, vous êtes plein à me dire que c'est super. Exceptionnel. Punaise, les frissons. Ça, c'est autre chose. Oh la vache. Oh, est-ce qu'il est disponible sur une plateforme, ce film? Comment ça s'appelle, du coup? Alors, c'est Albator, le corsaire de l'espace. Est-ce que vous avez l'info? Est-ce qu'il est dispo sur une plateforme? 2014, ce film, c'est une dinguerie. Je l'ai revu il y a deux semaines, me dit Excalamez. Oh, je l'ai pas vu. Est-ce que vous pensez qu'il est Netflix? What? C'est parti. Ça va se rattraper, ça, aujourd'hui, ça. Je l'ai pas vu. J'étais persuadé de l'avoir vu. Mais cette bande-annonce, elle claque trop. Je m'en serais rappelé. Recherche en direct. On croise les doigts. qu'il soit toujours. Albator, il est plus. Il est plus. Nul. Streaming gratuit, nom du film. Mais c'est interdit. Sur Prime, il serait sur Prime. Vous pensez qu'il est sur Prime? Ce serait trop bien. Ok. Ah, il est sur Prime. Ok. Bah, ok, sur Prime. Je peux le louer sur Prime. Je vais le louer. D'autant que manifestement certains ont dit que il était vraiment super. Ok. 3€ à louer. Ok. Bah, let's go. Cet après-midi, on va faire sauter la sieste et on va faire ça. Bon, pardon pour ce long pas de côté. Maintenant, on va lire l'article du Monde consacré au papa d'Albator. Je remercie Qualiki pour ce 11e mois d'abonnement. Bonne semaine, Samuel Bator, pirate de la formation pour tous. Mais c'est trop, vous êtes trop gentil. Merci Nelfero pour le 2e mois d'abonnement. Merci Wasp pour le 18e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Pourquoi on fait tout ça? Ben, pour rendre hommage à ce monsieur. Je vous ferme les 600 000 pages que j'ai ouvert là. Voilà. Pour rendre hommage à ce monsieur, voilà, on a appris sa mort ce matin. Article du Monde, à mon avis, qui n'est pas accessible gratuitement, mais comme je suis abonné, let's go. Leiji Matsumoto, c'est lui, c'est le créateur donc d'Albator. Il est décédé 85 ans, certains le connaissent notamment parce qu'il a collaboré avec le groupe Daft Punk. C'est un long article, on va prendre le temps, on va pas tout lire, mais il est vachement bien écrit. À l'image de son héros le plus connu, le corsaire de l'espace Albator, Leiji Matsumoto n'a jamais baissé le pavillon. Lina le Dragon, merci beaucoup pour cet abonnement, c'est gentil. Le mangaka est auteur d'animation prolifique, bon, manifestement il a beaucoup bossé, et donc mort le 13 février, mais on l'a appris qu'il y a quelques heures, à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui un panthéon spatial sans confins, c'est vachement bien écrit, peuplé de libres et sombres héros, est construit sur une carrière de plus de 60 ans. Moi, je parle beaucoup d'Albator parce que c'est ce que je connais, mais manifestement, son univers était beaucoup plus riche. Il naît en 1938, passion très tôt pour le dessin. Ado, déjà, il publie dans des journaux, des magazines locaux. Premier manga à 15 ans, Les Aventures d'une abeille. Voilà, moi, à 15 ans, je faisais du Bicross dans la cour de l'école. Et lui, il publie son premier manga. Plus jeune, c'est le métier d'aviateur qui le fait rêver, comme son père. Voilà, problème de vue, donc vocation contrariée. Tant mieux pour nous. Comme je gagnais un peu d'argent avec mes dessins publiés, je décide d'aller à Tokyo pour aider ma famille. Je n'avais en poche que mes pinceaux et le billet aller. Le Monde nous explique qu'il venait d'un milieu assez modeste, quoi. Émerveillé par les cartoons américains. Ému par Scarlett O'Hara dans Autant d'emporte le vent, subjugué aussi par Osamu Tezuka, le maître du manga, le jeune homme commence sa carrière à la fin des années 50, ça remonte un petit peu quand même, en dessinant des shoujo, manga à destination des jeunes filles, souvent des bluettes. Voilà. Et c'est dans ses premières planches, même s'il ne les évoque pas souvent dans le reste de sa carrière, qu'il va élaborer ses silhouettes féminines, caractéristiques, élancées, sensuel, qui préfigure, on en parlait ensemble. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est bizarre ce qui s'est passé. Qui préfigure ces héroïnes diaphanes comme l'aventurière Esmeralda, Maëtel dans Galaxy Express 999 et les Sylvidres que nous évoquions tout à l'heure. Ce qui est drôle, c'est que le Monde explique que ces traits caractéristiques élancées et sensuelles de ces héroïnes, il les emprunte à une égérie, une actrice américaine qui s'appelle Marianne Hold. Alors, je suis allé voir les photos ce matin et en fait j'ai pas trouvé ça, mais voilà, c'est rigolo. Alors bon, je vous lis pas tout l'article, il est très très long, mais vraiment sur toute sa carrière. Voilà, il devient un manga star, l'un des chefs d'orchestre du space opéra japonais. En 1974, dans une saga épique où les humains sont mis en péril par un envahisseur alien, il transforme en vaisseau spatial le Yamato, cuirassé principal de la marine japonaise. Saga culte au Japon, un des premiers blockbusters de l'animation, maintes fois réinventé, mais moins connu en France que Capitaine Flamme, le pirate de l'espace naviguant sur l'Arcadia, que les petits Français, dont Bibi, découvrent dans l'émission Récréa 2. On est en 1980. Voilà. Et le Monde nous explique que Leiji Matsumoto est en fait un des premiers mangaka à l'époque à se faire un nom en France au moment où déferlent les Goldorak, les Capitaines Flammes, etc. Alors ce qui est drôle, c'est que le monde nous explique que la tête de mort d'Albator, Matsumoto, qui était pas forcément un monsieur triste et grave, l'aborde en permanence sur une espèce de bonnet de calot qu'il porte sur la tête. Voilà. Et notamment quand il reçoit l'ordre des arts et des lettres en France, puisqu'il est décoré les chevaliers des arts et des lettres, eh bien il a son fameux bonnet. Est-ce qu'il l'a sur cette photo d'ailleurs? Voilà, petit bonnet ici, le calot avec la petite tête de mort, effectivement, quoi. Là, il est en France, il est à Annecy. Festival sans doute de la bande dessinée. Ok. Je descends un peu dans l'article. Ah, on arrive à Albator, là. Voilà. Alors, pourquoi il aborde cette tête de mort, d'ailleurs? Il l'a expliqué. Au moment où il a été décoré, d'ailleurs, en France. Cela signifie que jusqu'à ma mort... Annecy, c'est le festival du film d'animation. Pardon, j'ai confondu avec Angoulême. Merci de la correction. Annecy, c'est bien sûr le festival du film d'animation. Heureusement que vous êtes là. Pourquoi la tête de mort? Cela signifie que jusqu'à ma mort, même devenu squelette, je continuerai à me battre pour mes objectifs. C'est beau, ça. L'idée n'est pas forcément de faire peur, mais de montrer une détermination. C'est aussi un symbole de liberté. En 77, on y arrive, il donne sa propre série à Albator. Voilà. Mais on écrit deux autres importantes, Queen Esmeralda, dont l'héroïne est le pendant féminin du pirate, mais aussi Galaxy Express 999, qui raconte les aventures de Tetsuro, humain qui embarque dans un train de l'espace à l'aide d'une superbe et secrète extraterrestre à la longue chevelure blonde, Maëtel. C'est intéressant parce que la figure féminine est quand même super présente, quoi. Bon, autant d'œuvres à découvrir que moi je ne connais pas, que vous connaissez peut-être vous. Une œuvre marquée par la guerre, la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était enfant. Ouais, c'est fou. Voilà. Ouais. Décennie 80, moins favorable à l'auteur. Voilà. Avec une notoriété qui s'éclipse, notamment en Europe. Traversée du désert, jusqu'à sa collaboration avec Daft Punk. Voilà. Et là, on va en passer juste quelques secondes. Du clip. Parce que ça, c'est lui. Vous irez voir, on va pas se faire bannir. Voilà. Et là, on retrouve, oui, on retrouve toute l'esthétique du papa d'Albator. C'est génial, voilà. Et c'est là où on reparle de lui en France et en Europe notamment. Voilà. Ah oui, sinon, oui, c'est vrai, je peux enlever le son, sinon. Je peux... Ouais, c'est vrai. Je peux vous le laisser. On regarde juste un petit peu l'univers graphique du coup. Ouais, bonne idée. Ouais. C'est drôle. C'est génial. Toujours ces silhouettes féminines élancées, espèce de mystérieuse princesse, c'est fou. C'est drôle. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Je pense d'ailleurs que j'ai regardé le clip à l'époque sans savoir que c'était de lui, quoi. Alors l'histoire de ce clip, on l'a ici dans l'article du Monde, qui est très très complet, que vous pourrez lire de façon plus détaillée si vous le souhaitez, à la demande du duo de musique électronique. Il participe donc en 2003 à ce long métrage d'animation, Interstellar 5555, dans lequel il met son imaginaire au service de l'album Discovery. Le succès retentissant et international du succès. Bavard, infatigable, généreux, le dessinateur ne boudera pas son plaisir de revenir en grâce en Europe et à voyager régulièrement pour saluer ses fans. Et en 2013, il fête ses 60 ans de carrière au Festival National de la BD d'Angoulême. On parlait d'Annecy tout à l'heure, mais là c'est Angoulême. Alors, la chute du papier est hyper touchante, je l'ai lu ce matin dans le taxi. Leiji Matsumoto n'aura pas pu toutefois réaliser son rêve ultime, celui d'aller dans l'espace pour admirer la Terre. Je trouve ça trop chou. Et ce, peu importe s'il y a ou non un billet retour. Voilà. Il rêvait d'aller dans l'espace au moins une fois, même s'il n'y avait pas de billet retour. Mais il n'était pas du genre à avoir des regrets, comme il aimait le dire, le temps ne trahit pas ses rêves. Chapeau, monsieur Matsumoto, pour cette vie inspirante, pardon, le petit virus de l'hiver, et qui nous aura fait rêver. Voilà, 25 janvier 1938, naissance au Japon, 2023, il y a quelques jours, mort à l'âge de 85 ans. Article signé Pauline Croquet, et remercions Pauline pour ce très bel article en vrai, qui est magnifique, regardez, il est assez costaud. Vous trouverez peut-être d'autres beaux articles consacrés à Matsumoto, mais je trouve que celui du Monde est vraiment bien fait. Voilà. La presse écrite, c'est aussi ça, c'est un média qui prend le temps, et qui a le temps d'ailleurs, hein, puisque la longueur d'un article n'est pas limitée. On n'est pas dans un JT de 30 minutes, bien d'expliquer les choses. Quoi. Donc merci au Monde pour cet hommage. Si, j'ai vu qu'il y avait un film, j'ai vu. Parce qu'il y a des gens qui insistent pour me dire qu'il y a un film consacré à tout ça. Merci Christopher Lee pour Gentil Red. J'ai vu. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on passe au reste de l'actualité en parlant notamment de la guerre en Ukraine. Merci Zinedine. Oui, donc il y a un film autour de cet univers, ok. Mais alors, j'ai pas lu le message, parce que je trouvais que le message était un peu imprécis. C'est-à-dire, un film autour de cet univers, ça veut dire quoi? Quel est le nom du film? Quel est le concept? Parce qu'il me manque un petit peu des infos. Qu'est-ce que ça veut dire un film autour de cet univers? Est-ce que c'est un film signé de Matsumoto? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un documentaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une œuvre de fiction? Est-ce que c'est quelqu'un qui a raconté la vie de Matsumoto? Voilà, il me manque juste une info, en fait, pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est Interstellar 5, 5, c'est ça? C'est ça? Attendez, j'ai peut-être l'info dans le chat. Parce que ici, les infos de chat sont souvent extrêmement pertinentes. Ok, là j'ai une fiche wiki mais en anglais. Ah, c'est le film, c'est ça? C'est ça dont vous parlez en fait? Ok. Tu prends tous les clips de l'album et ça fait un film Interstellar 5555. D'accord, ok. Un film d'une heure. Rizone 37 me demande, Samuel, comment savoir si une personne est l'amour de sa vie? Tu le sais. Tu le sais, en fait. Ça, pour le coup, c'est super simple. Tu le sais. Si tu le sais pas, c'est que c'est pas la personne. Ok. Ok. Ce n'est pas un clip, c'est un film de la durée de l'album. Ah, la vache, c'est vachement intéressant. Ok. Ok. En tout cas, moi, le film... Albator, dont j'ai vu la bande-annonce tout à l'heure en japonais, je vais essayer de le louer cet après-midi, quoi. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir pris ce petit temps pour rendre hommage à Matsumoto. Et maintenant, je vais chercher ma presse. Je remercie Antoun pour le 8e mois d'abonnement, Stick88 pour le 14e mois d'abonnement, Christopher, merci encore pour le raid. Ozymandia FG, merci pour le 17e mois. Linal Dragon, je t'ai remercié tout à l'heure, mais je le refais. Merci pour le Prime. Humain, joli pseudo. Merci pour le 5e mois. Kaliki, merci pour le 11e mois. Nelfero, merci pour le 2e mois. Waps, merci pour le 18e mois. Et c'est parti. Je vous préviens, ce stream, on va prendre le temps ce matin. Let's go. Oui, Alexandra, j'ai vu qu'on pouvait mettre des musiques sur TikTok. Mais je suis sur le... Oui, je loue. Moi, je suis un vieux truc, voilà. Et puis, à un moment, quand il y a des droits d'auteur, tout ça, des artistes qui ont travaillé, bon. Et quand on a les moyens, j'ai la chance de beaucoup travailler et d'avoir eu un petit peu de succès dans mes aventures professionnelles, quand on a les moyens de payer les trucs, les œuvres artistiques, et donc que les artistes ou leurs ayants droit puissent, à un moment, recevoir aussi le fruit de leur travail, bon, en vrai, c'est cool, quoi. On y va ? C'est go ? Vous êtes prêts ? J'attendais un go, on l'a. Donc, cette semaine, voilà, il va beaucoup être question, hop, de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce que vendredi, on sera le 24 février, ça fera tout pile un an que la guerre en Ukraine a débuté. Un an. un an de guerre en Ukraine. Et donc, vendredi, on va rentrer dans le début d'une deuxième année de conflit. La question est de savoir, bien sûr, combien de temps ça va durer, cette histoire. Alors, moi, mon travail, ça va être non, de ne pas vous lire les mêmes articles tous les jours. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que cette info sur Biden, on ne l'avait pas ce matin. Vous me donnez une info qui est vachement intéressante sur le président américain Joe Biden que je suis en train de vérifier. Et donc, moi, mon travail cette semaine, ça va être de vous trouver des articles qui ne disent pas la même chose, bien sûr, et qui vont éclairer la situation pour comprendre, effectivement, Biden, il y a une petite histoire. Où on en est de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est ce que je vais faire. Par exemple, les trois articles que je vous ai mis de côté ce matin ne disent pas la même chose. Alors, effectivement, il y a une actu autour de Biden, le président américain. Visite en Pologne. Voilà. Ok. Attendu en Pologne les 21 et 22, donc demain et après-demain. Voilà. Mais certains pensent que il serait même, à l'heure où on parle à Kiev, ce serait la source de l'info, c'est The Economist, me dit-on. Ce qui est une source relative. Mais c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Attends, waouh! Biden est à Kiev? Oui, c'est là, ouais. Là. Biden est en Ukraine. Ok. Merci d'avoir donné cette info, parce qu'effectivement, bah, du coup, c'est une info importante. Parce que c'est une visite surprise, sans doute. Ouais, il y a des images que je vois partout, effectivement. Pour des raisons de sécurité, bien sûr. Voilà, c'est une info qui est donnée par des journalistes que je connais, notamment. Donc, qui me semble digne de foi. On vérifie quand même. Petite manie de la vérification. Chez Papy Sam. Ok. Je regarde les sources, en fait, qui donnent cette info. Ok, c'est un geste qui est fort, bien sûr, hein, s'il est confirmé. Voilà. J'ai l'impression que tous les médias ne le donnent pas encore. Ça veut dire que cette info est en train d'être vérifiée. Voilà. Ok. Non, c'est bien... C'est bien Kiev. Certains disent non, c'est la Pologne. Non, c'est bien Kiev. C'est bien Kiev. Voilà, on va vérifier. Je vais aller sur le site du Monde parce que il semblerait que le Monde donne cette info. Moi, il y a des sources d'infos qui me semblent, comment dire, plus carrées que d'autres en fonction de. Est-ce que je vois? Ouais, effectivement. C'est laconique, voilà. Mais le site du Monde donne Joe Biden à Kiev. Voilà. 10h55, donc ça a été posté il y a une minute. Voilà. Bon, alors après, une source d'information, quelle que soit sa qualité, il faut garder la prudence et le doute, en fait. Vous allez dire que je doute beaucoup, mais c'est cette prudence par rapport à un événement qui vient de se produire, qui est en train de se dérouler, il faut toujours l'avoir en tête, parce que on est aujourd'hui encore plus à l'heure où les gens s'informent énormément sur Internet et que n'importe qui peut devenir émetteur d'une information. On peut être facilement manipulé aussi. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez ce temps que je passe à vérifier cette info, à aller voir quelles sont les sources qui donnent cette information. Par exemple, là, la vidéo que je vous ai passée, elle a été postée par François Baudonnet, qui est un journaliste de France Télévisions, qui est un spécialiste des questions européennes. Si François Baudonnet, qui est un journaliste avec une grosse expérience spécialiste des questions européennes, poste cette image, je sais que derrière, il y a eu un travail de vérification, etc. Quand Le Monde confirme de façon laconique, comme ça à l'instant ici, que d'un mot ici, Joe Biden est à Kiev, Voilà. Bon, on peut considérer que cette information est assez carrée aussi. Voilà. Bon, voilà, vous voyez un petit peu comment un journaliste, quand il essaie de faire correctement son travail, fonctionne, c'est-à-dire qu'il vérifie, survérifie, etc. Et tout. Donc Joe Biden, pour le coup, on peut le commenter, effectivement. C'est un geste extrêmement fort. C'est un geste extrêmement fort parce que, bon, ça pose, vous l'imaginez bien, je vais vous remettre l'image, des questions de sécurité quand même, parce que, ouais, on parle d'un pays en guerre. Vous imaginez bien que on n'amène pas sur place, à Kiev, a priori, le président américain, sans un luxe de précaution pour ne pas mettre sa vie en danger. Mais pour le coup, pour l'Ukraine, pour le président Zelensky, pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, qui espèrent bien que les alliés de l'Ukraine. Je suis en train de me recaler sur l'image parce que j'aimerais bien vous la faire revivre. Hop. Bah, c'est un geste extrêmement fort, bien sûr. Alors que les Ukrainiens et les Ukrainiennes espèrent bien que le soutien occidental va se poursuivre. Donc voilà, une image extrêmement symbolique et forte. Dans le chat, il y a des choses intéressantes. Des gens qui disent bah, peut-être que le président Biden va profiter de cette venue pour faire des annonces, peut-être sur l'envoi de matériel militaire supplémentaire. Bon, d'ici la fin de ce stream, d'ailleurs, on devrait le suivre. On va suivre cette information. J'appelle à commercier pour le Prime et Azan01, merci pour l'abonnement que tu as offert à Noémie. Déborah Lane, merci pour ce 11e mois d'abonnement. Je vous lis un petit peu, et puis on va finir par lire de la presse, ne vous inquiétez pas. Couscous, bien vu. Scène filmée à la cathédrale Saint-Michel à Kiev, merci pour l'info. Couscous, c'est très juste ce que tu dis. Visite d'autant plus intéressante qu'elle intervient dans un contexte de tension avec Pékin, puisque les Américains affrontent. Accuse Pékin de vouloir armer la Russie. Voilà. Donc là, il y a entre deux pays qui n'avaient pas besoin de ça pour déjà avoir des relations extrêmement tendues, États-Unis et Chine, il y a un nouveau dossier avec Washington qui est en train d'accuser par la voix de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, la Chine de Xi Jinping, eh bien de fournir de l'armement à la Russie. Et donc c'est dans ce contexte. C'est tendu, hein, c'est tendu. Je vous lis un petit peu et puis on va finir par lire le Parisien. Salut, j'appelle Echo, merci pour ton message. Hop! Ce stream va durer 10 heures parce qu'on a trop de choses intéressantes à raconter. Je lis un message. Ok, ouais, merci pour la photo, c'est gentil. Ça peut débloquer un truc, dit Benoît 35. En tout cas, pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, ce genre de visite, c'est extrêmement fort et symbolique, c'est sûr. Comme le dit Alastair, c'est un geste fort. Est-ce comparable à Kennedy à Berlin, dit Hugo? Alors, c'est pas le même contexte, pas la même histoire, hein, Kennedy à Berlin. Mais aussi fort, oui, sans doute, ouais. D'où peut-être que la visite ne soit pas annoncée pour la sécurité, dit Edith. Oui, complètement, 100%, 2000%. Visite non annoncée pour les raisons de sécurité, bien sûr. Ok, l'info vient d'être confirmée par le compte de France TV Europe, me dit Noémie. Poutine va péter un plomb? Oui, sans doute, Ginta. Certains, les mauvaises langues diront que c'est fait déjà depuis longtemps. Pourquoi est dans un pays en guerre, Lenny Dream? Bah, tout simplement pour. Afficher le soutien d'un pays à un autre, quoi. Les États-Unis est le pays qui soutient le plus économiquement et militairement l'Ukraine. Il n'y a rien de très, très choquant à ce que le président dudit pays, Biden, affiche ce soutien en se rendant sur place, quoi. Malgré la prise de risque que ça implique, bien sûr. C'est intéressant. Voilà. Vous verrez que demain matin, il y aura des articles qui vont décrypter tout ça. Ce que ça veut dire, pourquoi cette visite, pourquoi à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des annonces, comment ça a été pris du côté russe, parce qu'il y aura sans doute d'ici demain une réaction de Moscou. Ouais, c'est extrêmement intéressant. J'ai un ou deux messages et on enchaîne. Il y a Slepnir qui dit Sam, on aimerait entendre l'autre son de cloche. Serais-tu pro-américain? Bah, l'autre son de cloche, on le sait, enfin, on le connaît. L'autre son de cloche, c'est pas très sympa de traiter Poutine de cloche déjà. L'autre son de cloche, c'est celle du président américain qui dit que. Russe, Poutine, qui dit donc qu'il n'y a pas guerre déjà, c'est pas une guerre. C'est une opération spéciale, formidable. Pourtant, on a quand même l'impression que c'est une guerre, mais non, c'est une opération spéciale. Qui dit quoi encore? Que c'est une pas une guerre, mais une opération de dénazification de l'Ukraine. Ok, d'accord, ok. On a pourtant l'impression que les Ukrainiens et les Ukrainiennes, eux, se battent pour garder leur indépendance et leur liberté. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que c'est pour libérer l'Ukraine, et l'Ukraine qui est russe, par ailleurs. Ça, c'est aussi la conviction du président Poutine, hein. Au regard de l'histoire, pour lui, l'Ukraine, c'est la Russie. Bah, là encore, c'est problématique. C'est pas du tout l'avis des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Et pas seulement du président Zelensky, puisque ce sont des gens, que ce soit des militaires ou des civils, qui sont prêts à payer de leur vie pour ne pas vivre sous le joug et la tutelle de la Russie. Donc l'autre son de cloche, Slepnir, on le connaît, mais se trouve que côté occidental, on a estimé que ce son de cloche, il n'était pas juste, et que l'Ukraine n'était pas russe, et que cette opération était bien une guerre, et que ce n'était pas une opération de désanification. Donc, c'est pas la peine tellement de rappeler ce son de cloche, mais après, tu peux regarder les médias russes, si tu le souhaites, qui ne sont pas libres, hélas, puisqu'il n'y a pas de liberté de la presse en Russie, et tu auras cet autre son de cloche. Personnellement, ici, moi, je l'ai assez entendu, et je ne suis pas convaincu. Allez, c'est parti. Let's go. Le Parisien. Je vous ai mis 3 articles de côté ce matin sur... Hop, je vais enlever cette scène qui ne sert à rien ici. Voilà. Sur la guerre en Ukraine, avec donc vendredi 12 mois de conflit. La sale guerre de Poutine, ça c'est la une du Parisien, les mots sont assez forts. Viol, torture, enfants déportés, 66 000 enquêtes pour crimes de guerre sont ouvertes en Ukraine. Elle révèle la brutalité du conflit, la cruauté des soldats de l'armée russe. Même les enfants sont pris pour cible. La personne à l'instant qui nous demandait d'avoir le son de cloche de Poutine. Écoute, je pense que tu vas péter un câble en lisant le Parisien ce matin. Donc pour ton bien, je pense que peut-être que tu peux couper le son pendant une minute ou deux. Poutine, visage de la barbarie, écrit Nicolas Charbonneau, qui est le directeur des rédactions du Parisien. Ce sont des vidéos glaçantes. Des images qui montrent la violence crue de la guerre et disent l'horreur absolue des tranchées, des corps à corps et du bourbier dans lequel des hommes tombent comme aux pires heures de la Première Guerre mondiale. S'y ajoutent maintenant les témoignages de parents sans nouvelles de leurs enfants, bien souvent des écoliers qui, au prétexte d'une colonie de vacances organisée par les autorités russes, ont été emmenés hors du territoire ukrainien sans qu'on sache toujours où ils sont retenus. Partout où ils le peuvent, les Russes prennent les enfants. C'est le directeur d'une ONG locale ukrainienne qui témoigne de ça. Dans le Parisien. Après avoir multiplié les crimes de guerre, le Kremlin utilise donc cette nouvelle arme terrifiante, l'enlèvement et la déportation des enfants. Après le viol des femmes, après l'anéantissement des villages, après le massacre de civils qui renvoie au souvenir d'Oradour-sur-Glane, ça c'est chez nous, c'est en France, les plus jeunes, les enfants sont donc pris pour cible. Cette barbarie, écrit le Parisien ce matin, le visage d'un homme, cet homme c'est Vladimir Poutine, dont le nom s'inscrit chaque jour davantage dans les pages les plus sombres de l'histoire. On repense, écrit Nicolas Charbonneau ce matin, à des voix qui, en France, aux deux extrêmes de l'échiquier politique d'ailleurs, trouvaient encore récemment Vladimir Poutine fréquentable. Or, comme disait un de ses opposants, l'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov, au début de cette guerre, pour Poutine, la violence est non seulement possible, mais souhaitable. Ses héros sont Staline et Ivan le Terrible, dont acte. Écrit ce matin, le Parisien. Bon, il se trouve effectivement dans le Parisien, vous le lirez si ça vous intéresse, il y a une interview d'un directeur d'ONG ukrainienne qui dénonce le fait que des enfants ukrainiens ont été emmenés en Russie et qu'il est très difficile, même si parfois ils arrivent, pour les parents ukrainiens de retrouver ensuite leurs enfants. Ça, c'est le Parisien. Gros dossier dans le Parisien. Gros dossier dans Libération et aussi dans Les Échos. Entre deux articles, je vous lis un petit peu, même si sur le sujet de la guerre en Ukraine, Parfois, il arrive dans le chat, bon courage au modo, que j'ai pas salué d'ailleurs encore, que les esprits s'échauffent. Merci Anonyme 31, Julo 38, My Little Trip, Rayes, et l'ami Nightbot, bien sûr, qu'on a évoqué tout à l'heure. Merci à Germaine 82 pour le 4e mois d'abonnement, à Pugna 31 pour le 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Japalako, Hazard, merci encore. Alors. Je vois quelqu'un a rappelé la modération dans le chat, c'est donc ça le chauffait un petit peu. C'est normal, on parle de l'actualité, et parfois l'actualité c'est un petit peu tendu, du moment que ici toutes les opinions sont autorisées et à condition qu'elles soient légales, bien sûr, et à condition qu'elles soient correctement exprimées aussi avec respect, notamment les uns par rapport aux autres. C'est un petit peu le cadre qu'on définit. Caradoc, merci pour l'abonnement offert à Nightbot, j'apprécie. Salut Caius, bonne journée. Attention, il y a des Russes qui sont contre cette guerre, il ne faut pas l'oublier, ou se dit « oui, tu as raison ». Même si pas mal de ces Russes qui ont manifesté en Russie contre cette guerre ont été interpellés. Merci Satsubatsu01 pour ce 9e mois. Merci Ries pour le raid, merci. Ok. Bon, ça va, je trouve que pour un sujet qui est parfois aussi sensible, le chat en vrai est assez cool. Libération, numéro spécial consacré à la guerre en Ukraine. Le Libé des Ukrainiens. Un an après le début de la guerre, en fait ce sera vendredi, vous l'avez compris. Volontaires, réfugiés, soldats, civils, politiques, artistes racontent l'horreur, la peur, mais aussi leurs espoirs. Plongée intime et politique dans les 1001 visages du conflit. Alors. Le dossier de Libé est assez touffu. Il y a des articles qui sont vraiment très intéressants. Moi, j'ai choisi de vous lire une interview du maire de Kiev. Voilà. Kiev, où manifestement le président américain est actuellement en visite au moment où on parle. Là. Visite surprise de Joe Biden, on a vu les images tout à l'heure. Eh bien, interview du maire de Kiev, qui est un ancien champion de boxe, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vitaly Klitschko. Voilà. Figure centrale de la résistance. Dans une interview exclusive donc à Libération, il dit pas mal de choses intéressantes, et notamment qu'il est convaincu de la victoire de son pays, clé de la paix et de la liberté en Europe. Il dit aussi qu'en nous, les Occidentaux, les Européens, les Américains, en aidant l'Ukraine, quelque part, on cède, nous aussi. Il va nous expliquer pourquoi. Je remercie Donis pour le 18e mois d'abonnement et Meditor pour le Prime. Lisons cette ITV. Maire de la capitale depuis 2014, l'ancien champion du monde de boxe, Vitaly Klitschko, 50 ans, n'a pratiquement pas quitté Kiev depuis le début de la guerre. Question de libération au maire de la capitale. Est-ce que la résistance des Ukrainiens et des habitants de Kiev vous a étonné? Et il raconte cette anecdote. Au cours de la première semaine de la guerre, il faisait un froid glacial. Il y avait du vent, il neigeait. Une fois à 3h du matin, je me suis rendu dans un centre de recrutement de l'armée qui fonctionnait 24h sur 24. Et là, je vois une file d'attente de plusieurs milliers de personnes, donc en pleine nuit, dans la neige, sur un kilomètre de long, des hommes, des femmes qui sont là, debout, dans le froid, à attendre qu'on leur donne des armes pour aller combattre. Ces gens-là ne voulaient pas immigrer, ne voulaient pas quitter leur ville, leur pays, ils ont décidé de rester et de défendre notre pays. Leur motivation pour participer à cette guerre insensée est simple. Nous, les Ukrainiens, voulons faire partie du monde démocratique, de la famille européenne, et la Russie n'accepte pas notre souhait. Ils veulent nous ramener, les Russes, dans l'Empire russe. Selon la propagande russe, explique encore le maire de Kiev, il s'agit d'une opération spéciale contre les forces militaires. Hein, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure. Officiellement, du côté du Kremlin, il n'y a toujours pas de guerre en Ukraine. Malgré tous les morts, c'est une opération spéciale. Et le maire de Kiev répond, mais en fait, c'est même pas la guerre. Lui, il dit, c'est du terrorisme. Si les Russes détruisent le système de chauffage des Ukrainiens, s'ils essaient de geler le pays entier, surtout cet hiver, alors que les températures sont très basses, c'est pour nous faire partir. Pourquoi détruire la vie normale des civils? Parce que les Russes essaient de démoraliser le pays. Sauf que c'est le contraire qui s'est produit. Oui, les gens sont plutôt déprimés, mais ils sont aussi en colère. Leur réaction est différente de ce que les Russes attendaient. Ils se disent « mieux vaut vivre sans électricité et sans eau qu'avec les soldats russes ». Question de libération. Je vous lis pas toute l'interview, juste un petit extrait. C'est à lire dans Libé, que vous pouvez acheter en kiosque ou le télécharger. Pensez-vous que la paix puisse être retrouvée tant que Poutine restera au pouvoir? Le maire de Kiev marque une longue pause et répond. La guerre va se terminer, parce qu'il faudra bien sortir de cette guerre à un moment. La guerre va se terminer par une forme d'accord autour d'une table. Les Russes disent « Trouvons un compromis maintenant », ce qui signifierait leur abandonner de larges morceaux de notre pays. Ce n'est pas une solution. Je vais lire vos messages dans un instant. Nous sommes prêts à discuter, nous sommes prêts à nous asseoir à la table diplomatique, à n'importe quel moment, mais à une seule condition, que le dernier soldat russe ait quitté le sol ukrainien dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Le maire de Kiev, il n'est pas le seul. Hein. C'est ce que dit le président Macron aussi en France. Il dit, à un moment, il faudra bien, même si nous sommes en guerre aujourd'hui, il faudra bien un jour se mettre à la table des négociations, la table de la paix pour chercher et trouver une issue à ce conflit. Il faudra bien que cette guerre se termine. Et à un moment, il faudra bien discuter. La question, c'est qu'est-ce que les deux parties au conflit sont prêts à mettre sur cette table, voilà. Côté ukrainien, on dit on ne discute pas et on ne discute de rien tant qu'il y a encore un seul soldat russe sur le sol ukrainien, disant même voilà, il faut notamment libérer la Crimée prise en 2014. Et côté russe, c'est ce que dit le président Poutine. Bon, lui, il n'est pas en guerre. Il y a une opération spéciale pour libérer l'Ukraine. Donc, a priori, sur le papier, tant qu'il n'a pas, je mets des énormes guillemets, libéré l'Ukraine, il n'y a pas de raison de se mettre autour de la table. Donc, sur le papier, les négociations de paix pour sortir de ce conflit, et pourtant, il faudra bien le faire un jour, a priori, ce n'est pas pour demain. D'où l'intérêt de cette visite de Biden en direct, puisque le président Biden, pour ceux qui nous rejoignent, est actuellement à Kiev. Je vous lis un petit peu, parce qu'on est là pour échanger. Même si je ne suis pas un spécialiste des questions internationales, hein. Moi je réponds avec les infos que j'ai. Hein. Parfois mon analyse elle peut aussi être erronée. Je remercie la cantine. Ah la cantine! Merci. Mais on est venu nous voir pour des raids au moins une fois déjà. Et on me dit beaucoup de bien de ce que tu fais. Merci pour le cinquième mois d'abonnement. Ah ouais, c'est cool. Je me demande si t'as pas fêté un anniversaire de stream récemment? Ça me parle. VDMJM, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Allez voir la cantine. C'est une très belle chaîne. Alors, je vous lis un petit peu. Merci, QP, pour le quatrième mois d'abonnement. La chaîne, la cantine, elle est en haut, là, si vous voulez aller voir, elle est en haut du chat. L'AFP vient de tweeter la venue du président américain à Kiev, me dit Nico le ch'ti, donc c'est confirmé de chez confirmé. Javier Chang, la Russie est en train de perdre cette guerre, elle ne veut pas l'admettre. Je lis encore deux messages et je vous lis un papier du Figaro qui est intéressant, qui est sur les opinions publiques européennes par rapport à ce conflit. Vous allez voir qu'il y a des sacrées différences. Et qu'en France, en fait, les Français, par rapport à d'autres pays européens, sont pas ceux qui soutiennent le plus en fait l'Ukraine et les livraisons d'armes à l'Ukraine, par exemple. Merci Nicolas pour le très gentil message et le 14e mois d'abonnement qui va avec, c'est adorable. Il y a la souricière qui me dit que Hugo Décrypte a sorti un reportage en Ukraine. Sur l'Ukraine ou en Ukraine? Hugo, il est en Ukraine ou il a fait un reportage sur l'Ukraine? Parce que Hugo, je suis allé voir récemment ce qu'il faisait sur TikTok notamment, et il ne semblait pas être en Ukraine. Il est en Ukraine, Hugo, en ce moment? Il est en Ukraine? Waouh! Oh, c'est top! La classe! Ok, bravo Hugo, qui est venu à la maison dans l'hebdo Étienne. Bravo à lui. Ouais, Martineau nous donne cette info et il ou elle a raison. Rappelons que 320 000 soldats russes sont prêts à être déployés pour une grande offensive dans l'Est. Effectivement, il est soupçonné qu'avec la fin de l'hiver et le début du printemps, En fait, Vladimir Poutine tente de reprendre l'avantage militaire avec une grande offensive, avec peut-être 300 000 hommes supplémentaires. D'où les demandes pressantes de Volodymyr Zelensky auprès de ses alliés pour avoir les chars lourds, pour avoir les avions de combat, pour avoir éventuellement les missiles à longue portée, quoi. Exactement. Et la visite de Biden aujourd'hui en Ukraine, elle est dans ce contexte, quoi. Voilà. Allez, un dernier article sur l'Ukraine, et puis on va parler à d'autres actualités, parce que je vous ai mis d'autres choses de côté. Merci Martinou. Et de rien, Le Figaro, c'est ça. Alors ça, c'est intéressant. C'est sur les différentes opinions européennes, parce que tous les Européens ne pensent pas la même chose de cette guerre en Ukraine. Et vous allez voir que les Français sont un petit peu à part. Ukraine, les opinions européennes divisées sur l'aide militaire, donc c'est la une ce matin du Figaro. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Le Figaro, le soutien à l'Ukraine, les opinions publiques restent majoritaires, mais divergent entre l'Est et l'Ouest. Deux camps se distinguent. Les pays en pointe que sont la Pologne, 80% des Polonais approuvent les livraisons d'armes européennes à l'Ukraine. La Grande-Bretagne en pointe aussi, on est à 70%, suivi par les Néerlandais, 67%, les Espagnols. Donc il y a deux camps en Europe, il y a les pays dont les populations soutiennent vraiment fortement les livraisons d'armes à l'Ukraine. Il y a des pays où c'est majoritaire, mais où c'est moins important. Donc on parlait des 80% en Pologne ou 70% en Grande-Bretagne, ok ? Vous avez en France 54% seulement. 52% en Allemagne, 49% en Italie. Vous voyez que le soutien n'est pas le même. Cette hiérarchie des opinions européennes correspond et se superpose bien avec l'attitude des gouvernements des différents pays. Le Figaro montre que ces soutiens de population à l'Ukraine, c'est quasiment le décalque des positions des politiques. Alors la grande question, c'est qui donne le ton ? Et le Figaro n'a pas la réponse. Mais la question que se pose le Figaro, c'est est-ce que c'est parce que un gouvernement a pris une position par rapport à cette guerre que consciemment ou inconsciemment l'opinion publique se rallie à cette position, ou est-ce qu'à l'inverse, le gouvernement d'un pays donné prend cette position par rapport à ce conflit en rapport avec la position de son opinion publique? Le Figaro se pose la question, il n'a pas la réponse. C'est intéressant, hein ? Lisons un petit peu le détail de ce sondage. Hop. Il est intéressant de constater, écrit Le Figaro, c'est Jérôme Fourquet ici, en fait, qui s'exprime, qui est le directeur du département opinion de l'IFOP. Donc en fait, c'est plus lui qui parle que Le Figaro. Et donc il détaille un petit peu cette enquête. Il dit, il est intéressant de constater que le degré d'empathie avec l'Ukraine dans les différentes opinions publiques européennes apparaît aligné sur l'activisme diplomatique et intensité du soutien à la cause ukrainienne des gouvernements de chaque pays. C'est exactement ce que je vous disais. On peut dès lors s'interroger sur l'origine de la congruence, je ne connaissais pas ce mot, mais je pense que c'est un peu comme convergence, congruence des prises de position des gouvernements et de l'état de leur opinion publique respective. Alors, la grande question, mais ça, le monsieur, il n'a pas la réponse, est-ce que les chefs d'État adoptent une ligne diplomatique et militaire en fonction de ce qu'ils perçoivent du climat d'opinion dans leur pays? Voilà. Ou à l'inverse, est-ce que les prises de position en faveur de l'Ukraine affichées à la tête du pays ont un effet d'entraînement et d'influence sur les populations? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une question qui est intéressante. Ce que constate aussi cette enquête, c'est que le soutien à la cause ukrainienne, cette empathie s'érode, s'affaiblit doucement, progressivement. Riuns, merci beaucoup pour ce prime à l'instant. Même si les opinions publiques européennes ont clairement choisi leur camp dans ce conflit, hein, majoritairement pour l'Ukraine, la poursuite des combats depuis un an, les demandes répétées de livraison d'armes toujours plus nombreuses de la part de Kiev et les conséquences de cette guerre aussi sur la situation économique des pays semblent générer une érosion progressive du soutien de la population à la cause ukrainienne, alimenté sans doute par une lassitude et l'inquiétude d'une escalade du conflit. C'est intéressant ça. En France comme en Allemagne, la bonne opinion de l'Ukraine a ainsi enregistré un recul significatif et régulier, passant de 82 à 64% dans l'Hexagone et de 86 à 61% outre-Rhin. Plus, merci Bachi Bouzouk pour le soutien, plus la guerre dure et plus le soutien diminue, s'affaiblit, s'érode. Si la cote de popularité de l'Ukraine décroît depuis mars 2022, en revanche, celle de la Russie ne connaît aucune embellie. C'est-à-dire, c'est pas parce que le soutien à l'Ukraine diminue un peu que la cote d'amour de la Russie remonte. Voilà, ça reste très faible. Il n'y a pas de rééquilibrage des points de vue, seulement une érosion de l'image de l'Ukraine sans que la Russie redore son blason. Donc c'est exactement pas ce que tu dis, Trionix, qui vient d'écrire « Les gens ouvrent petit à petit les yeux sur ce conflit ». Donc c'est exactement l'inverse de ce que vient dire le Figaro, qui dit que c'est pas du tout les gens qui pensent que la Russie a raison dans cette affaire, c'est juste que les gens fatiguent de cette guerre, et notamment des conséquences économiques. C'est bien parce que tu l'as écrit au moment même où je disais cette phrase. On était très bien synchronisés, c'était assez joli. C'était comme un peu du patinage artistique. Ainsi en France, 87... Alors, tiens, le détail selon les électeurs, selon un petit peu les sensibilités politiques. Pardon Trionix, tu me dis que tu ne parlais pas que de ça. Excuse-moi. En France, 87% des électeurs d'Emmanuel Macron ont une bonne opinion de l'Ukraine. Seulement 62% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. L'empathie pour l'Ukraine est beaucoup moins répandue dans les rangs lepénistes. 49% seulement des électeurs de Marine Le Pen ont une bonne image de l'Ukraine. Encore moins chez les électeurs de Zemmour, parce qu'il y en avait quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns à la présidentielle, 47%. Voilà. Et 40% des électeurs de Zemmour, ça c'est le plus haut score, regardent avec bienveillance la Russie. 40% des électeurs, presque un sur deux des électeurs de Zemmour, regardent avec bienveillance la Russie. Voilà. Donc, grosse enquête sur les opinions publiques de différents pays en Europe, Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Pays-Bas, France, Italie, Allemagne. Voilà, deux constats, il y a des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, où les populations soutiennent beaucoup plus l'Ukraine que chez nous, même si le sentiment majoritairement est pro-Ukraine en France, il est beaucoup plus fort dans d'autres pays, et puis aussi un soutien qui s'affaiblit avec le temps, selon le Figaro, notamment dû à une forme de lassitude par rapport à la durée de cette guerre et aussi aux conséquences économiques. Vous savez que cette guerre en Ukraine a proposé une hyperinflation sur notamment les produits de grande consommation. Je vous lis un petit peu et puis on passe à une autre actualité, sachant que mardi, mercredi, jeudi et vendredi avec Inoxtag, on parlera sans doute de la guerre en Ukraine parce que il se passe pas mal de choses cette semaine. Hop, allez, puis je vais me chercher un petit café aussi parce que petit virus du week-end là, et je suis un peu dopé par le Doliprane, mais parfois je suis un petit peu à côté de mon cerveau, donc si je dis des trucs bizarres en ce moment, mettez ça sur le compte de la fièvre. Stixio, merci pour le Prime. Alors, Pierrot dit, mais Inoxtag, il connaît rien à l'actu, non? Oui, c'est lui qui le dit d'ailleurs. Inox, il m'a dit, viens, tu vas me parler de l'actu vendredi matin, et je n'y connais rien, je ne suis pas du tout, mais on va en parler ensemble, et je trouve ça super. Je salue cette curiosité et je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Slogan, merci pour le troisième mois d'abonnement. Allez, je vous lis. Yes, ça c'est beau. Il y a Sleipnir qui est content d'être avec nous et qui écrit un truc que je trouve très cool. Sleipnir qui dit, je tiens à dire que je l'apprécie le fait de pouvoir polémiquer avec respect. Et ça, je trouve ça formidable. Écoute, en fait, cette simple phrase, elle valide tout ce que j'essaie de faire ici. C'est-à-dire que personne ici affirme détenir la vérité, et même moi, si parfois je peux être un peu péremptoire sur certains trucs, parce qu'en fait j'ai quand même un caractère de cochon, même si j'essaie de le cacher, au moment où j'affirme des trucs, je me dis aussi, mais est-ce que t'as, dans ma tête, est-ce que t'as raison, Samuel Etienne ? Est-ce que ton analyse est juste ? Est-ce qu'elle est bonne ? Voilà. Et à condition de le faire de manière correcte ici, et vous, et à 99,99% vous le faites, on arrive ici à parler de trucs super tendus. Tous les sujets d'actualité un peu tendus, on les évoque ici. Là, on parle de la guerre en Ukraine, par exemple. Mais on arrive à en parler, même quand on n'est absolument pas d'accord, avec une forme de respect qui est cool, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment très agréable. Merci pour ce message et merci à tous, en fait. Allez, je vous lis encore un petit peu sur l'Ukraine. Tu vas avoir foule en bas de chez toi avec Inox, fais attention, me dit Smoker. Non, mais c'est chez lui. C'est dans la villa qu'il loue pour fêter ses 6 millions d'abonnés. Là. Pff, 6 millions d'abonnés. Non, mais Inox, ça va être super. Ça va être top. Merci Mister So, comment vas-tu? Ça fait 9 mois d'abonnement. Hâte de voir le live avec Inox. Ouais. Dommage que ce soit pas ton 6e mois d'abonnement, ça ferait Mister So 6. So 6. Désolé, excusez-moi. Pardon. C'est parce que je voilà, j'aime bien ces petites blagues là. So 6, So 6. Désolé. OK. Encore deux messages et on y va. Non, ne m'encouragez pas. Rosa, il faut pas m'encourager. Tu vois, il y a Luluzar qui écrit flop, tu vois, qui ne m'encourage pas. Ah, il y a Mister So qui me dit tu fais toujours la même blague quand tu vois mon sub. Oui, désolé. Désolé, désolé, ne m'encouragez pas. Ça y est, il y a Yo Faraway qui me dit je me désabonne. Mais t'es pas abonné, arrête. Arrête, je vois les badges, hein, t'es pas abonné. Mytho. Je me désabonne. T'es pas abonné. C'est mytho. C'est fou ça. Ça, c'est les blagues de papa. Ouais. C'est totalement assumé, exactement. Il y a parenthèse qui dit je vais m'abonner pour me désabonner. Je kiffe. Je vous adore. Non. Maintenant, arrête Owen. En fait, il y a Owen hier qui, depuis tout à l'heure, régulièrement poste dans le chat, assez gentiment d'ailleurs, hein, pas trop. Il dit bonjour Samuel, va-t-on parler du carnaval de Dunkerque? Non. Non. Non, j'ai pas trop. Non, parce que en vrai, j'aime bien le phénomène du carnaval, c'est hyper intéressant. En vrai, c'est sociologiquement, c'est fascinant le carnaval. En vrai, c'est juste que j'ai pas trouvé d'article là-dessus. Si je trouve un article intelligent dans la presse sur le carnaval de Dunkerque, ben je te le lirai. J'ai pas trouvé. Mais pour te faire plaisir, voilà, j'ai pas le carnaval de Dunkerque, mais ouh, carnaval, voilà, c'est la fête. Voilà, c'est les ballons dinosaures de l'anniversaire de Solal, qui a eu un anniversaire dinosaure pour ses 3 ans il y a quelques jours. Voilà. Ce Solal, c'est mon petit, il a eu mon deuxième, il a eu 3 ans. Et il kiffe les dinosaures. Donc on lui a fait un anniversaire dinosaure. Regardez. Et ça, c'est un dinosaure. Ça, c'est un dinosaure. Et on en a partout dans la maison. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Allez, on va dire que c'est carnaval. Carnaval. Voilà. Ça va? C'est bon? Maintenant, tu peux arrêter de poster ton message. Fou ça. Reyes, merci pour l'abonnement offert à Parenthèse. Foot03, merci pour l'abonnement offert à Billy Blurray. Novax682, merci pour le 16e mois d'abonnement. Artichaut Patate. Hey, comment ça va? Merci pour l'abonnement que tu offres à YoFareWay. Ok. Ouais, ils sont cool les dinosaures. C'est gonflé à un truc qui flotte là. Exactement. Ouais. Exactement. C'est... Oh, Hélène, elle fait des anniversaires pour les enfants, une folie. Bon, on va parler d'un truc un peu plus léger. Arrêtez avec le carnaval, bordel. Dès que je vous trouve un article sympa sur le carnaval, c'est hyper intéressant le carnaval, c'est hyper intéressant. Dès que je vous trouve un article sympa sur le carnaval, je vous le lis. Voilà. Bon, allez, je vais me faire un petit café. Parce que ça fait 1h53 que je suis très bavard ce matin, je parle dans tous les sens, excusez-moi. Mais c'est ça qui est bon. Parce que dans mon métier de journaliste depuis... Je calcule, je sais jamais. Je suis tellement vieux. Je travaille depuis combien de temps? J'ai commencé en 1994. On est en 2023. 29 ans que je fais ce métier, bordel. Parce que souvent dans ma tête, je dis 25 ans parce que je veux pas vieillir, mais c'est 29 ans que je fais ce métier. Et donc à la télé, à la radio, tout ça, les mots sont comptés, voilà, le journal c'est 10 minutes, l'émission c'est tant, donc voilà, il y a quelqu'un derrière. Mais ici tu peux parler pendant des heures, voilà, c'est super. Donc j'en profite un petit peu. Ouais, 29 ans. Plus de 2 ans sur Twitch et 29 ans. Donc dans un instant, plein de trucs à vous lire, vraiment intéressant, notamment un papier passionnant dans les échos sur où on en est aujourd'hui du marché du jeu vidéo en France. Voilà. Et puis un article assez rigolo sur le culte du corps. Les jeunes Français seraient dans le culte du corps. Ils seraient de plus en plus nombreux à la salle de gym et de faire des exercices devant la glace comme ça. Pour avoir le joli ventre, les jolis pecs, les trucs et tout là, dans un truc, voilà, et puis après ils s'exhiberaient sur les réseaux sociaux, voilà, ce serait une espèce de... C'est vrai ça? C'est vrai ça? On en parle dans un instant. Je vais me chercher un café Super petit teasing. Hop, je vous mets une petite musique de pause. Pendant 3 minutes, de la musique pour ceux qui sont abonnés. Petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça va me payer le café. Et on se retrouve dans 3 minutes pour lire ce papier et plein d'autres, notamment sur les jeux vidéo. Je vous dis à tout de suite, bande de belles personnes. Ne bougez pas. Enfin, si vous avez le droit d'aller chercher un café. Je suis tellement gentil. Tout de suite.
Father, please forgive me all these evil things I do. You see, I'm breaking down these tendencies and check myself the truth. I got an evil in my head. I got these voices in my ear. They're daring me to do these things that I don't want to hear. So let me sleep till my heart rate drops and this grip releases me. Oh no, please don't take what's left of my heart, my self-respect, because I'm crawling on hands and knees, digging up that part of me. Is it hard to see my rage, my lust, my honesty? Embody poetry, embody soda.
Tiens, un petit point météo d'ailleurs. Il fait super beau, super doux. Je sais pas si vous êtes sortis hier, mais c'était à Paris, c'était une dinguerie. Après-midi, on s'est promené en famille dans un parc là, dans le quartier. C'était le printemps. C'était le printemps. On s'est mis sur un banc. Oh, les petits plaisirs simples du dimanche. On s'est mis sur un banc. Malo, il est chez sa grand-mère, notre grande 6 ans là. Il vit sa meilleure vie hein, parce que là-bas, c'est un peu la teuf. Il est avec tonton Hugo qui joue aux jeux vidéo, donc voilà, vous imaginez. Et donc, on était tous les trois avec Solal. On passait un petit peu de temps qu'avec lui. C'est cool aussi pour les enfants qu'ils aient du temps que pour eux et pas seulement pour la fratrie. Et on était vraiment. Oh, c'était trop cool quoi. Il faisait beau. On était sur le. Voilà. On s'est fait une crêpe. Voilà. Je suis au régime, donc je me nourris essentiellement de crêpes au sucre et au spéculoos en ce moment. Ça marche pas très très bien d'ailleurs. Et Solal a pris une glace. Voilà. Au mois de février. Il faisait super beau. C'était vraiment un chouette moment. Juste pour vous faire un petit point météo, j'ai parlé avec Valérie Maurice ce matin de la météo. Profitez, parce qu'il fait beau et doux. Mais ça va se gâter dans les prochains jours, me dit Valérie. Le retour du froid. En même temps, on est en février, hein, tu vois, c'est un peu normal. Retour du froid. Et bonne nouvelle pour la nappe phréatique et pour les stations de ski aussi. La pluie arrive. Et la pluie, quand il fait froid en altitude, c'est... Bien joué, vous êtes des champions. C'est de la neige. Voilà. Et puis, comme c'est un peu la sécheresse, là, il nous faut de la flotte. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, voilà, c'est le petit point météo gratuit. C'est le même prix. Ne me remerciez pas. Andy Capé. Moi, je te dis merci. Bravo pour ton pseudo, Andy Capé. Merci pour ce Prime. Le Tech, merci pour ce très gentil raid. Et merci de nous rejoindre. Rue NSD, merci pour le Prime. Alors. Oui. De cette histoire, Maddy McCann. Je suis pas au courant, et je rebille de Maddy McCann cette affaire, mais je vais. J'irai voir. Il y a Lester qui me dit je fais un régime crêpe aussi, je te confirme, ça marche pas. Ah ouais, toi aussi ah ouais. Je voulais perdre du poids là parce que j'ai arrêté de faire du sport. À cause de vous, hein, ça c'est le stream. Hein. Et donc je prends un peu de ventre, donc j'ai essayé un régime crêpe que j'avais trouvé dans un magazine de beauté breton. Ça ne marche pas du tout, c'est une catastrophe. C'est de pire en pire, je ne sais pas. Je n'arrive plus. J'ai du mal à fermer mes chemises au travail. Je ne sais pas quoi faire. Oh, c'est mignon. Oh. Citrus écrit : je vais bientôt tatouer mon premier dragon sur un gentil jeune homme. Dans quelques semaines, je me suis dit que tu serais content de savoir que les dragons reviennent en force. Oui. J'en suis très content. Ok. Est-ce que tu vas recruter un barista en septembre ? Je ne suis pas sûr d'avoir le budget pour recruter un barista en septembre. En revanche, je suis sûr, quasiment sûr à 98%, de m'investir plus sur Twitch à la rentrée et de faire plein de trucs ici. Enfin, c'est sûr. Ok, puisqu'on parle de régime crêpe, on va parler de sport. On va parler de... Merci Carlsborg pour ce 13e mois d'abonnement. Les habitués sont là, merci à toi. On va parler... De culte du corps. Oui, je sais. Il y a Ganisso qui dit rachète des nouvelles chemises, tu iras que du feu après. Non ! C'est ce que me dit mon épouse aussi. Et là, je lui dis oh là là, putain, j'ai pris du bide et tout, j'arrive plus à fermer mes chemises. Il me dit change de chemise. Achète des nouvelles chemises, la taille au-dessus. Et je dis mais non, mais c'est le début de la fin. Voilà, j'ai passé 50 ans, je suis en train de prendre du bide, j'ai arrêté le sport. Si j'achète des nouvelles chemises, ça veut dire que j'abandonne. Ça veut dire que ça y est, c'est fini. Voilà. Hein, allez, c'est fini, on se laisse aller, c'est pas grave. Non, il faut que je reprenne, Non, surtout pas changer les chemises, malheureux. Justement, à chaque fois que je ferme avec difficulté mes chemises et que j'essaie de boutonner mon pantalon de costume, eh ben non, justement, ça me rappelle. Ça me rappelle que je suis en mode loukoum, en petite mode de beurre. Voilà, non, justement, surtout pas. Il y a mon épouse qui m'a filé un truc qui date de ses grossesses. J'arrive plus à fermer mon pantalon. Et donc, avec un petit élastique à cheveux, vous savez, petit élastique à cheveux tout simple. En fait, tu l'entoures autour du bouton. Tu le passes dans le trou du truc, là, pour fermer le pantalon. Voilà, ça crée un peu d'élastique. Là, tu peux, hein, subitement, tu peux plus ou moins fermer un pantalon qui ne fermait plus, quoi. Mon Dieu, j'en suis là, les gars. Je suis en train de mettre des élastiques à cheveux au niveau de mes futs, quoi. C'est pas sérieux. le petit début de vieillesse plus l'arrêt du sport, une catastrophe, catastrophe, catastrophe. Voilà. Ouais. Mais j'ai trop la flemme d'aller courir en ce moment. J'ai passé 30 ans à courir tous les jours, à faire du sport tous les jours. Trop la flemme. Trop la flemme. Ouais. Il y a Skirino qui m'encourage et qui dit il faut reprendre une crêpe. Bah ça m'aide. Allez, let's go. Tiens, ça va peut-être me motiver. Allez, c'est parti. Astari 69004, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Avec ça, je vais m'acheter une crêpe. Tiens. Regardez. Tiens, ça va me motiver ça. C'est parti, let's go. C'est parti. Le culte du corps ou l'infatigable quête du muscle des générations Y et Z. Bon, ça c'est vous les jeunes. Alors qu'est-ce qui se passe ? Figaro, page 13, jeunes et adolescents, ça c'est vous ça, sont de plus en plus nombreux à tout miser sur leur musculature. À tout miser, tu vois, genre tout. À mon avis, c'est un petit peu exagéré. Et à l'exhiber sur les réseaux sociaux. Vous faites ça, vous ? Vous exhibez, vous ? Sur les réseaux sociaux ? Véritable prescripteur. Voilà, c'est vrai ça ou pas ? Vous faites ça, vous, on va faire un sondage. Ouais. Qui va à la salle dans le chat ? Voilà. Ah, il y a de la salle dans le chat ? On va faire un sondage. Lisons. Comme Pauline, de plus en plus de Français prennent goût à la pratique régulière du sport. Bon, ça, c'est pas très nouveau. C'est vrai que la pratique du sport en France ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est cool. Et les jeunes sont particulièrement concernés. Bon, jusque-là, ok, c'est cool. En 2018, selon un baromètre Crédoc UCPA. Ah, putain, quand j'étais jeune, j'allais beaucoup à l'UCPA, moi. Les vacances sportives. C'était super pour faire la fête. 75% des 16-25 ans faisaient du sport au moins une fois par semaine contre 68% en 2015. Donc la pratique du sport augmente chez les Français, notamment chez les jeunes. Ça, c'est bien. Depuis la fin de la crise sanitaire, les salles de sport, qui comptaient déjà 6 millions d'adhérents en 2019, ont retrouvé le sourire, du moins celles qui n'ont pas fermé, bien sûr. Donc les gens sont repartis à la salle. Regardez, c'est beau ces jeunes-là. Allez, c'est beau. Hein, allez, allez, les mux. Regardez ça, le ventre, il est plat, là. Regardez, tchac, tchac. Oh, putain, c'est... Il n'y a pas de source, je ne sais pas où a été prise cette photo, mais ça va bien. Ils sont désormais nombreux, ceux qui assument, alors un petit peu au-delà du sport, leur quête du muscle. C'est quoi ta quête ? Bah, le sens de la vie, donner un sens à ma vie, voilà, je sais pas, faire de belles rencontres, être heureux, donner du... Et toi, la quête du muscle. Ok. Selon l'expression de Guillaume Vallet, qui est un professeur en sciences économiques qui parle de ça, adepte lui-même du culturisme, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La fabrique du muscle. Ok. Et il dit, ce monsieur, l'entretien du corps est devenu une pratique de masse. Ok. Qui ne connaît pas de frontières de genre, de qualité, de catégories socio-professionnelles, de lieux d'habitation, d'âge, même si on constate que les jeunes sont encore plus accros que les autres, dit l'enseignant-chercheur. Les réseaux sociaux ont beaucoup joué dans cette attractivité auprès de ces jeunes gens qui sont nés et grandis avec eux. Ils sont amenés à regarder ce qui s'y passe et à poster du contenu en permanence. L'idée de projeter une image de soi fait partie de leur culture. Logiquement, l'idée d'avoir un beau corps, c'était moi avant ça, selon les normes actuelles, va être très importante pour eux. Donc il y a la progression de la pratique du sport dans la population, notamment jeune, cool. Et il y a le fait que comme les jeunes sont très branchés réseaux sociaux, eh bien certains exposent, exhibent un peu cette pratique sportive. Bon. Dans le sillage des vidéos du youtubeur star de la musculation Thibaut InShape, bon, je pense que vous connaissez, et de sa compagne Juju Fitcat, tous les deux passionnés de fitness, de nombreux adeptes, hommes comme femmes, s'affichent sur les réseaux sociaux. On témoigne par exemple le succès des hashtags fitnessgirl et girls ou lift, littéralement les femmes qui soulèvent du poids. En tenue de sport et devant des machines, ces internautes affichent fièrement leur forme. Quelqu'un qui a lancé un sondage ? Quoi ? Quelqu'un a lancé un sondage ? Qui a lancé un sondage ? Cette chaîne a 2 ans. Pour la première fois, ce monopole du sondage que j'ai moi a été violé. Qui ? Quelle indignité, comme le dit Raccoon. Qui a lancé un sondage ? J'ai le monopole du sondage ici. Quelqu'un a lancé un sondage. On arrête tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus de 2 ans d'efforts, de ténacité, d'engagement, de rigueur, de passion, hein, d'investissement en temps au détriment de ma famille, de ma santé, de mon ventre, j'en ai parlé. Et quelqu'un a lancé un sondage. Quelqu'un a lancé un sondage. J'adore. Mais non, mais je vais lancer le sondage, je vais le faire, mais c'est moi qui fais ça, bordel. Laissez-moi jouer avec mes boutons, là. Tellement fier de maîtriser ces trucs, là. Ne me privez pas de mes petits plaisirs, hein. Déjà que j'ai du ventre. Laissez-moi faire mes sondages. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je le prends très très bien. Donc voilà. Je lis un dernier passage et je lance un sondage. C'est moi qui vais le faire. Les corps super musclés qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, ça influence forcément. Même en ayant conscience que t'es pas malheureux dans ton corps, t'es tenté par tout ça et tu finis par le faire par effet de mode, dit Bruno, 20 ans par exemple, qui fait de la course à pied et de la musculation. Derrière les indéniables bienfaits, attention aux excès, comme en toute chose par exemple, dans une vidéo d'octobre 2015, Thibaut InShape, dont on parlait, a prévenu ses followers. Petit à petit, ce mode de vie a pris complètement possession de mon quotidien et de mon alimentation. Cette dépendance au sport, elle a un nom, c'est la bigorexie. Hein, c'est qu'on est un tout petit peu accro au sport. Je l'ai été un petit peu à une époque. Beaucoup moins maintenant. Comme ça se voit d'ailleurs dans mes pantalons. Thibaut InShape conclut, même si ce sport, il parle de la muscu, hein, est le plus beau du monde, vous ne devez pas vous couper de tout. Ne mettez pas votre famille, vos amis de côté pour un physique dont vous ne serez de toute façon jamais satisfait. C'est cool. Apprenez à mettre la salle de muscu de côté et à profiter des gens qui vous aiment, alors vous vivrez heureux. Bah ouais, c'est cool ce qu'il dit Thibaut InShape en vrai. Allez les amis, petit sondage. Que je rappelle que j'ai la passion du sondage et que, évidemment, personne ici n'oserait lancer un sondage à ma place. Évidemment, cela va sans dire, mais mieux encore en le disant, puisque j'ai vu un truc bizarre donc, tout à l'heure. qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question ? Je vais vous poser deux questions différentes. La première, c'est faites-vous, voilà, tout simplement, voilà, attention, il y a une deuxième question qui va arriver après. Faites-vous, c'est un sondage en deux temps, parce que le sondage est une science. Voilà, on ne fait pas, on lance pas des sondages comme ça n'importe comment, à la va-vite, comme ça, entre deux trucs. Non, c'est une science, c'est quelque chose qui doit être construit, qui doit être pensé. Voilà, je dis ça. Faites-vous régulièrement du sport ? Oui. On va même chiffrer. C'est une science le sondage. Hein. 5 fois et plus. Parce que tu vois, c'est là où vous voyez que c'est pensé, hein, tout ça, un sondage très par semaine, 5 fois et plus, donc c'est par semaine, ok. D'accord. Alors on va dire 5 fois et plus, ah, parce que c'est très difficile de faire un sondage vraiment pertinent. 5 fois et plus par semaine, entre 2. Vous voyez la complexité de l'exercice ? Entre 2 et 4. Ok. Voilà. 2 et 4. On va mettre occasionnellement. Voilà. Et jamais. Voilà. Oui, c'est pas facile hein, de faire un sondage. C'est presque un art d'ailleurs. Je ne sais pas. Je lance le sondage. C'est parti. Faites-vous régulièrement du sport. 5 fois et plus par semaine. Donc là, vous êtes bien accro. Entre 2 et 4, là pour moi, bon, moi c'est une pratique que j'ai, pour le coup, qui m'a concerné pendant longtemps. Course à pied, triathlon, c'était à peu près ça, quoi. Entre 2 et 7. Mais disons entre 2 et 4, vous êtes vraiment sportif très régulier. Occasionnellement, bon, on va dire c'est de temps en temps, c'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et puis jamais. Okay. Sport, c'est tous les sports. Sport, c'est salle du... On me demande, salle de sport, c'est sport. Course à pied, c'est sport. Arts martiaux, c'est sport. On me demande sport avec la chérie. Non, ça peut être du sport, mais je ne le compte pas ici. Je ne le compte pas. Voilà. D'autres, voilà. Je ne le compte pas. Respirer est-il un sport ? Non. Je vois que certains sont vraiment... Non, j'ai dit le sport en chambre, je l'ai répondu, ça ne compte pas. Non. Yoga, ouais, ça compte. Kiné, non. Non, si c'est vous qui vous faites manipuler, non. Si vous êtes kiné, c'est du sport. Non, je lance ce sondage. Vélo pour les trajets, c'est du sport? Oui. Je viens de lancer le sondage. Ouais, vélo, ouais. Ouais. Lever le coude, manger des crêpes? Non. Non. C'est le cardio avec la chérie? Non, je m'en fous. C'est pas du sport. De toute façon, vous vous vantez, vous. Je sais que les durées sont toujours exagérées, notamment pour les garçons. Donc non, c'est pas du sport. La pêche sportive. Je vais me fâcher avec les pêcheurs, mais j'ai envie de dire non. Le ménage, ça compte? Ça dépend de la taille de l'appart. Ça dépend. Si t'as 10 mètres carrés, non. Si t'en as 180, oui. Tai chi, c'est pas violent, mais. Le e-sport? E-sport, c'est du sport. E-sport, c'est du sport. Non, ça dépend de l'intensité. Oh, vous savez. Babyfoot. Le lancer. Non, Alastair, non, on n'a plus le droit de baguer là-dessus. Interdit. Non, le lancer de petites personnes, ça, non, on n'a pas le droit de. Non, ça, c'est interdit, ça. Faire des blagues. Non. Pas de ça. Non. 30 minutes de marche par jour, passé un certain âge, ça compte. C'est bien. C'est pas vraiment du sport. Allez, les résultats, c'est parti. Alors, faites-vous, vous, régulièrement du sport. Eh, c'est pas mal. 5 fois et plus par semaine, vous êtes 11%. C'est énorme. Bravo. Entre 2 et 4, 37%, c'est énorme. Vous êtes... Waouh. Eh, bande de sportifs. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à avoir que des gros flemmards du sport, en fait. Occasionnellement, 27%. Vous êtes quand même 23% à faire jamais de sport. Voilà. Alors certains dans le chat vont dire, voilà, les gens honnêtes. 23%, les gens honnêtes. Voilà. Dans l'autre sondage, ça donnait pas ça, dit Telou. Quel autre sondage? J'ai pas lancé d'autres sondages sur le sport. De quoi parles-tu? Il y a MDF qui parle du premier sondage. De quoi parlez-vous? Il n'y a jamais eu de... Mais enfin, ben où avez-vous la tête? Mais qu'est-ce qui fait les sondages ici? Arrêtez de parler de ce premier sondage, j'ai pas eu de sondage. Enfin. Hey, vous êtes quand même 11% à faire du sport 5 fois et plus par semaine. Entre 2 et 4, 37% c'est beaucoup. Occasionnellement, 27% c'est beaucoup. 23% à jamais en faire. Voilà. C'est-à-dire, si j'enlève les 2% de je ne sais pas, ça fait quand même une très large majorité de gens qui font du sport. Le premier sondage parlait de salle de sport, me dit Xara. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Il n'y a pas eu d'autres sondages en fait sur le sport en fait ici. Ok. Maintenant que j'ai ce résultat, deuxième sondage. Parce que ici c'est mon petit plaisir. Donc personne n'oserait me priver. Non. Bien sûr que non. Pour ceux qui font du sport, ceux qui ont répondu qu'ils faisaient pas de sport, ou ceux qui ont répondu je ne sais pas. D'ailleurs c'est assez intéressant, les gens qui ne savent pas s'ils font du sport ou pas. Donc là. Ok. Pourquoi pas. Ceux qui font du sport, c'est pour vous celui-là. Est-ce que vous postez-vous vos photos de sport? Est-ce que vous vous mettez en scène? Est-ce que vous êtes en mode, hein? Tu vois, genre, est-ce que vous la racontez un petit peu quoi? Genre, vous voyez les photos qu'on voit sur Instagram, là, genre la salle. Hein, est-ce que vous le faites souvent? Parfois. Jamais. Ceux qui font du sport. Ceux qui font pas de sport, vous avez rien à poster. Hein, vous avez pas... photo de vous dans le canapé, c'est pas... Enfin, voilà. On s'en fout, quoi. Postez-vous vos photos de sport. Souvent, je parle aux sportifs. Parfois, jamais, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je mets ça, c'est pas réflexe, parce que normalement, vous savez. C'est parti. Voir les résultats. Alors. Strava, ça compte? Non, je parle de photos de vous. Pas des photos, des trucs qui vous permettent de mesurer vos performances, même si c'est un peu... Voilà, c'est vraiment les gens qui, comme le dit... le FIAO sont absolument le culte du corps. Voilà. Wen me dit, moi je m'exhibe dans la rue, j'ai fini au poste de police. Bon, écoute, chacun sa vie. torse nu sur un ours, Kletos Bright qui se prend pour Vladimir Poutine, n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà. Est-ce que ça flex, Jacques Milou? Exactement, c'est la question. Ok. Alors, les photos de vos résultats via les applications type Strava, pour moi, c'est pas une photo de vous en train de faire du sport, ok? Ok. Résultats, attention. Attention. Est-ce que vous êtes des exhibes du corps, quoi? Est-ce que vous... Let's go, c'est parti. Souvent, vous êtes 2%. Eh bien, merci pour votre honnêteté. Vous n'êtes pas beaucoup, mais vous êtes 2%. Parfois, 9%. Ah ben voilà. Ben alors, vous n'êtes pas du tout représentatif de cet article du Figaro. Vous êtes 87% les sportifs à ne jamais poster de photos de vous en train de faire du sport. Je ne sais pas, 2%. Voilà. Moi, en vrai, je vais être honnête, hein, je l'ai fait. Hein. Quand je faisais du sport, quand je faisais la course à pied, notamment, ça m'arrivait de poster des photos de mes petits footings à la cool, quoi. Donc, je ne suis pas blanc-blanc dans cette histoire. Hein. Je ne suis pas blanc-blanc. Alors que vous êtes une immense majorité, les sportifs, là, à ne pas poster. Ok. Foie jaune qui dit, mais oui, mais c'est toi. Oui, mais toi, t'es un exemple, c'est pas pareil. Je suis à deux doigts de te passer VIP de cette chaîne, toi. Hein? Ouais. C'est quoi Strava? C'est un truc que les cyclistes utilisent beaucoup, notamment pour comparer leurs performances sur des parcours. Vous connaissez pas Strava? C'est pas que pour les cyclistes, mais c'est très utilisé par les cyclistes qui comparent leurs petites perfs. Course à pied aussi, ouais. Mais là-bas, je crois que ça vient surtout des cyclistes. Hein. Mais... Alors moi, j'ai jamais trop utilisé ce truc-là, quoi. Ouais. Il y a Nefer Pito qui écrit « Peut-être que si on prenait que les gens qui vont à la salle, les résultats seront différents. » Et alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, j'ai lu ton message en mode « Peut-être que si on prenait que les gens qui vont à la selle, les résultats seraient différents. » Je me suis dit, mais quoi? Et en fait, non, tu disais sale, excuse-moi. Du coup, j'ai eu tout de suite une flopée d'images. Et ça m'a fait trop bizarre, en fait. Si on prenait que les photos des gens qui vont à la selle, je vois, non. Mais, tenez-vous, quoi. Franchement, un peu de tenue. Au sérieux, quoi. Je sais pas, mais moi, j'ai plein d'images qui arrivent, là. Oh Burk. Je vais remercier tous les subs. Hugo Gigi, merci pour le Prime. Bosco, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Ephaisto78, j'espère que tu vas bien. 1 an et demi, 18 mois que tu subs tous les mois. Merci beaucoup, c'est super gentil. Astari69, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Comment ça tu dégoûtes? C'est pas moi, c'est l'autre là qui dit c'est fou. Voilà. Comment passer de ça à la question de l'euthanasie en France? Je sais pas trop en fait. J'avoue, là je sais pas comment faire ma transition. Peut-être repasser par France Info pour voir si on a des nouvelles de la visite de Joe Biden en Ukraine. Ça va me faire une petite transition. Et hop là, merci France Info. Tout à l'heure, on a appris en direct grâce à qui? Grâce à vous.
Attends, on a des surprises, mais très franchement, pas de bonnes surprises.
C'est un copain, c'est Ben. C'est Ben Barnier. On peut l'écouter d'ailleurs. C'est Ben Barnier. C'est un copain envoyé spécial. En Ukraine, et là, qui est venu à la maison, d'ailleurs, dans l'hebdo Étienne, Ben, et bon, on va l'écouter. C'est le direct, en fait, c'est direct, c'est France Info. C'est en direct. J'ai coupé le direct. Bien joué, Samuel Étienne.
Cela, ça touche vraiment les Ukrainiens au cœur, parce que je peux vous dire, quasiment plusieurs fois par jour, toutes les nuits, les sirènes retentissent ici, à Kiev ou à Kharkiv. Les Ukrainiens vivent dans la crainte. C'est vraiment compliqué, le quotidien ukrainien. Donc, ces annonces sont importantes. Et puis, évidemment, il y a cette dimension symbolique. C'est la première visite du président Joe Biden ici en Ukraine depuis le début de la guerre. Et cela, c'est un signal très encourageant pour ces Ukrainiens.
Merci Ben Barnier. Guillaume Ancel, vous êtes toujours avec nous, vous, ancien militaire français. On a parlé du symbole. Mais l'armement et les livraisons d'armes supplémentaires, c'est ça la clé. 500 millions de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine des États-Unis. Ce qu'il faut, c'est des munitions d'artillerie.
En fait, ce qu'annonce le président américain, c'est quelque chose, encore une fois, assez symbolique. Les 500 millions par rapport aux dizaines de milliards.
Ok, bon, double info. Donc effectivement... À l'instant, Ben Barnier, envoyé spécial de France Info. Laissez-moi vérifier un truc. Hop. J'ai perdu le chat. C'est fou. Je vous ai toujours, manifestement, j'ai perdu le chat. Il faut que je le réactualise. Je réactualise le chat. Je ne supporte pas de vous perdre, en fait. Connexion au chat. Bah, j'ai plus le chat. Bah. Ah, vous êtes là. Super. Je vous avais perdu. D'accord. Donc, deux infos à l'instant, rapidement. Voilà, vous êtes là. Je vous avais perdu. Deux infos rapidement. Donc, sur la visite de Joe Biden, évidemment, une dimension symbolique très très forte de soutien aux Ukrainiens. Et manifestement, il y a eu une annonce de 500 millions de dollars supplémentaires. Alors, que dit France Info à propos de cette visite surprise du président américain à Kiev? Joe Biden promet des livraisons d'armement supplémentaires et assure le pays du soutien indéfectible des États-Unis. Quand on se déplace sur place, c'est vrai que ces mots portent d'autant plus. Je vais annoncer la livraison d'autres équipements essentiels, a annoncé le président américain tout à l'heure, en direct donc depuis l'Ukraine, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage, des radars de surveillance aérienne. Ok. Alors, quelqu'un me le disait dans le chat tout à l'heure, récemment, très récemment, secrétaire d'État américain Anthony Blixen, c'est ça? Vous me confirmez? Blixen a accusé la Chine de vouloir aider militairement la Russie. Blixen? Blinken. Je savais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et le gouvernement chinois nie. Il nie envisager de fournir des armes à la Russie. Tiens, c'est bizarre. Nous n'accepterons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, dit un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Et donc, l'info précédente, c'était que Pékin pourrait, conditionnel, fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. C'est Anthony Blinken, et pas Blixen, comme je disais à l'instant, je savais bien que ça n'allait pas, qui l'a déclaré dimanche à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois. D'accord. Bon, Pékin dit que c'est totalement faux. À suivre. Voilà pour les dernières infos en provenance de l'Ukraine. Maintenant, on va revenir en France avec un sujet qui est lourd, mais qui est super important, parce que peut-être qu'un jour, vous ou un proche sera touché, en fait, concerné par cette histoire. C'est la fin de vie. C'est la une de la Croix. Que je remercie de mettre ça en avant, parce que j'avais pas vu qu'il y avait eu ça ce week-end. La réflexion sur la fin de vie, sur l'aide à mourir, sur l'euthanasie en France. Un pas de plus vers l'aide active à mourir. En fait, il y a une convention citoyenne actuellement en France qui réfléchit, une convention qui réunit des citoyens, qui réfléchit à cette question. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi pour permettre plus facilement, pour dire les choses aux Français, notamment aux Français et aux Françaises qui souffrent de maladies incurables et douloureuses, de partir dans la dignité. C'est le débat sur la fin de vie, sur l'aide active à mourir, sur l'euthanasie. Voilà. Alors certains, et ils sont assez nombreux, estiment que la loi actuelle, elle est insuffisante. C'est la loi qui encadre ça en France, c'est la loi Claeys-Leonetti, voilà, qui en gros autorise non pas la fin de vie, mais la sédation, hein, c'est-à-dire le fait d'être, on va dire, endormi très 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 fort, de personnes qui ont des maladies incurables, qui ne peuvent pas être guéries, et qui souffrent. Et il y a des gens qui disent, mais c'est beaucoup trop restrictif, voilà, et il faut que cette loi soit plus large. Il y a une réflexion actuellement en France là-dessus. La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est massivement prononcée hier, dimanche, nous dit La Croix ce matin, en faveur d'une évolution de la loi actuelle. Il y a Zebelstein qui connaît le sujet, qui me dit, voilà, sédation profonde et continue. Voilà ce qui est permis aujourd'hui par la loi Claeys-Leonetti. Ce n'est pas un accompagnement vers la fin de vie, c'est une sédation profonde et continue. Alors, c'est une question qui est importante, qui touche à l'essentiel, c'est-à-dire à la vie et à la mort, mais qui pose beaucoup de questions aussi avec la notion de garde-fou, parce que là, on parle de mort. Hein. Voilà. Oui, je trouve que Lysiana, tu résumes bien le cadre actuel en France. La loi actuelle fait qu'on accompagne la mort, dis-tu, avec une sédation profonde et continue, mais on ne provoque pas la mort. Et je pense qu'on peut se mettre d'accord sur la façon dont tu présentes ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? les 184 citoyens et citoyennes de cette convention sur la fin de vie se sont massivement prononcés hier, donc ça c'est une vraie évolution, en faveur d'une évolution de la loi actuelle. À l'issue de 3 mois de débats et de rencontres avec les experts, 72% de ces citoyens se sont prononcés en faveur du suicide assisté. Donc ça, ce serait quelque chose de nouveau. Et 66% en faveur de l'euthanasie. Ce n'est pas la même chose. Leurs propositions finales seront remises à la fin du mois de mars au gouvernement. Là, je fais appel à vous, à votre intelligence collective. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Plutôt que de dire des bêtises, est-ce que quelqu'un peut définir clairement, là, je vous fais bosser, la différence entre suicide assisté et euthanasie ? Parce que ce n'est pas la même chose. Mais je pense que dans le chat, sur les presque 4000 que vous êtes, il y a quelqu'un qui va nous le dire très très clairement. Et je pense qu'il faut partir de cette base bien carrée avant de continuer l'article. Voilà, il y a Radiateur qui fuit qui dit qu'il faut distinguer l'euthanasie et le suicide assisté, qui n'est pas la même chose. C'est ce qu'on essaie de définir. Alors, Tardigrade, par exemple, dit le suicide assisté, c'est le patient qui fait le geste. Voilà. Malthazar, suicide assisté, il y a un comportement actif pour donner la mort. Non, oui, Karok, suicide, c'est toi qui appuies sur la seringue. Voilà. Et euthanasie, rajoute Evan Key dessous, c'est quelqu'un d'autre. Oui, je crois que c'est ça. Mopikel confirme, suicide assisté, décision de la personne qui meurt, enfin surtout c'est elle qui appuie effectivement littéralement sur la seringue, qui prend les médicaments. Euthanasie, c'est pas tellement au niveau de la décision. Ah, il y a My Little Trip qui propose, on parle d'euthanasie lorsque le patient est atteint de maladies incurables et met, merde, j'ai perdu le message, et est en phase de soins palliatifs, tandis que le suicide assisté concerne les patients qui souffrent, mais ne sont pas en phase terminale. Ah bon ? Ah ben on est sur une autre définition là. Bon, je vais faire des recherches alors. Parce que je vois qu'on n'est pas tout à fait précis là. Non, l'encadrer, c'est autre chose. C'est sur les situations dans différents pays. Tiens, il y a Dr Tiny Bloom qui dit, on a peut-être une def là. Le suicide assisté et l'euthanasie sont deux pratiques distinctes qui ont en commun l'objectif d'aider les personnes souffrant de maladies graves et incurables à mettre fin à leur vie. Le suicide assisté est une pratique dans laquelle un médecin ou un autre professionnel de santé fournit les moyens nécessaires à un patient pour se donner la mort, tels que des médicaments, mais le patient doit lui-même prendre la décision finale et effectuer l'acte de mettre fin à sa vie. Ok. Et l'euthanasie, alors ton message est un petit peu trop long, je pense que tu l'as complété un peu plus loin, c'est le médecin en gros. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah c'est ça. Ok. Parce que c'est clairement distingué dans les travaux de cette convention sur la fin de vie. Voilà. Donc c'est en fait la question de savoir c'est qui effectue l'acte, quoi. Suicide médicalement assisté, c'est le patient qui effectue l'acte, nous explique Décadragme. Euthanasie, c'est le corps médical qui exécute l'acte. Ok, je crois qu'on est clair. Il y a My Little Trip qui vient de nous mettre un article de l'Express sur cette question. Prenons le temps, c'est des sujets importants. Voilà. On est sur Twitch, on a le temps de bien comprendre les choses. Est-ce que cette distinction est juste sémantique, juste une histoire de mots, ou est-ce qu'elle recouvre une réelle différence de philosophie ? Quelle est la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie, selon l'Express ? La principale distinction, et ça revient à ce qu'on vient de lire, tient à l'association du patient dans le processus de fin de vie. Dans le cas de l'euthanasie, la décision est non seulement prise par le corps médical, mais également exécutée par lui. Lors d'un suicide médicalement assisté, c'est le patient lui-même qui effectue l'acte. On est bien d'accord. D'accord. Et puis, regardez, il y a un autre encadré qui est intéressant. J'ai mon petit Solal qui arrive là. Pourquoi la législation actuelle n'est plus suffisante ? Oui, mon chéri. Oh, c'est pas grave. Oui, je vais t'en gonfler un autre. Avec... C'est Da qui l'a cassé ? Oui. Ou c'est toi ? C'est pas grave. Tu peux me le prêter ? Je vais montrer aux gens ton dinosaure. Bon, il y a un de nos dinosaures qui est cassé. Regarde, cela, je montre aux gens. Voilà. Il est dégonflé. Mais c'est pas grave, on va en faire un autre avec maman. Qu'est-ce que t'en penses?
Maman est pas contente.
Bon, mais non, maman, elle sera contente. C'est pas grave, tu sais. On peut en faire d'autres.
C'est pas bon, ils vont pas
caver. Oui, mais ceux-là, ils sont pas cassés, j'en ai pris soin. Mais tu sais, c'est pas grave du tout parce qu'on peut en faire d'autres. Les ballons, ils finissent toujours par se casser, toujours. C'est normal. Donc c'est pas grave du tout. Mais maman, elle va rien dire. Elle va nous, peut-être nous aider à en faire d'autres. Dinosaure. T'es d'accord? T'es allé te promener? T'es allé où? T'es pas allé à la petite forêt?
Au parc.
T'es au parc? Ok.
T'es au manège.
T'es allé au manège? Combien t'as fait de tours? Deux? Trois?
Quatre?
T'as fait quatre tours? Comme ça? Pas 5, 4. Ok. Bah, t'as de la chance. Hein. Ok. Tu me fais un bisou? Excuse-moi, il était triste, lui, là. Il a perdu un de ses ballons d'anniversaire. Ok, bon, bah, maintenant, c'est assez clair. Grâce à votre patience, autant qu'on a pris ensemble. Maintenant, continuons à lire ce qui vient de se passer. Merci, Falon TV, pour le raid, c'est adorable. Merci, la Camille Masquée, pour j'ai vu ton sub tout à l'heure, ce 5e mois. Christ, 3221, merci pour le 13e mois. Gajin, 101, merci pour le 6e mois. Lao, merci pour le Prime. Hugo, Gigi, j'avais pas vu. Merci pour le Prime. Bosco, merci pour le 2e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Alors, maintenant qu'on est à peu près OK sur les définitions, voyons ce qui s'est passé ce week-end. Je prends le temps parce que c'est un sujet qui est un peu sensible et on va pas rusher là-dessus, quoi. Après 3 mois de travaux, vous voyez, on prend le temps, hein, la 6e session de la Convention s'est achevée dimanche par un vote crucial en faveur d'une évolution de la loi sur l'aide active à mourir. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? C'est la question qui était posée. La réponse aujourd'hui de cette convention, elle est claire, c'est non, le cadre légal actuel, il n'est pas adapté. Le cadre légal actuel, c'est cette loi dite Claeys-Leonetti de 2016, voilà, qui n'apporte pas de solution satisfaisante à toutes les souffrances rencontrées par certains Français, Françaises en France. 84% des votants ont répondu « c'est insuffisant ». Alors, sous quelle forme maintenant? Ça, c'est un autre débat. Faut-il ouvrir l'aide active à mourir, hein, euthanasie, on a vu les différences, hein, suicide assisté, cette dernière option à la préférence des citoyens, qui étaient réunis dans cette convention, mais l'euthanasie remporte aussi une majorité de suffrages. Voilà. Donc on voit qu'il y a des dissensions au sein de cette convention. D'autres questions, alors évidemment, c'est une réflexion qui est en cours, il y a plein de questions qui ne sont pas tranchées. De toute façon, à la fin, ce sera aux politiques, ce sera au gouvernement, ce sera au Parlement de s'emparer de cette évolution de la loi, et de la déterminer, de l'écrire et puis de la faire voter ou pas. Alors il y a plein de questions en suspens. Euthanasie, suicide assisté, est-ce qu'il faut réserver l'aide active à mourir aux majeurs? Est-ce qu'il faut l'élargir aux mineurs? Est-ce qu'il faut restreindre le dispositif aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme ou pas? Voilà. Est-ce que l'accès à l'aide à mourir doit être réservé aux personnes capables d'exprimer une volonté libre et éclairée ou pas, etc., etc. Voilà. Là, on n'est pas au bout de cette réflexion. Et la Croix, qui, alors c'est intéressant, qui est un journal catholique, qui est un journal chrétien, hein, qui a un rapport à la vie et à la mort qui est, comment dire, qui est encadré par ces croyances-là, et je trouve extrêmement sobre, extrêmement peu engagé dans son analyse de ce sujet, qui pourtant pour les chrétiens et les catholiques est un sujet très sensible. Et à la toute fin, quand même, on sent comme un bémol, une inquiétude. Un débat dont la conclusion provisoire montre que face à la survalorisation de la liberté individuelle devant la souffrance, c'est la toute fin de l'article, les arguments des interdits moraux et des risques de dérive n'ont finalement eu que peu de poids. La balle sera bientôt dans le camp d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vous, vous en pensez quoi ? Certains ont peut-être été confrontés à ces questions pour des proches. Mazef Youyou écrit journal catholique, mais très neutre sur la grosse majorité des sujets, même impliquant l'Église. Oui, c'est vrai. Et c'est la qualité, c'est une des qualités de la croix. Ouais. Adouskar, en tant que médecin, je dirais que je ne suis pas opposé, mais je ne souhaite personnellement pas qu'une euthanasie repose sur mon action. C'est un sujet délicat, le suicide assisté semble être une bonne alternative, mais il est important de bien encadrer ça pour éviter des dérives, bien sûr. Allez, je vous lis un petit peu. Donc, il y a notamment des médecins dans le chat. Il y a Fia qui écrit « C'est plus humain de voir mourir un proche sans douleur que de le voir mourir de faim parce qu'il n'est plus alimenté. » Malthazar, je pense qu'il faudra mettre une clause de conscience pour les médecins, ce qui implique de modifier la législation pénale pour, aussi pour non-assistance à personnes en danger et publicité des fournitures de moyens. Une remarque de la Mandalorienne, qui est une habituée de cette chaîne. Être catholique ne signifie pas être totalement soumis au dogme. Moi-même catholique, je suis pro-choix dans ce sujet comme dans d'autres, comme l'avortement. Merci de ton commentaire. Okay. Je ne fais pas de sondage sur ce sujet, parce qu'on a l'occasion d'en reparler et qu'on est au tout début de cette réflexion. Vous voyez bien qu'il y a plein de questions qui ne sont pas tranchées. Ce qui serait intéressant, et peut-être qu'on va le vivre dans les prochains mois, dans ce deuxième quinquennat Macron, puisque je crois que le président Macron a promis de se pencher sur la question, c'est de voir si le pouvoir exécutif ou législatif, projet de loi ou proposition de loi, vont nous proposer un texte, voilà, sur ce sujet, sachant que, c'est vrai, quand on sonde les Français sur cette question, l'immense majorité des Français sont pour une évolution de la loi, et pour en avoir déjà parlé avec vous, j'ai déjà fait des sondages sur cette question, vous êtes aussi très largement majoritaire pour voir une évolution de la loi. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Ah, c'est vrai, je ne me rappelais plus. Il y a BWD Slayer qui dit « Le film Million Dollar Baby parle de ce sujet et est très émouvant. » Moi, j'ai été ému aux larmes par ce film et je ne me rappelais pas qu'à la toute fin, la question de l'euthanasie et de l'aide active à mourir a été évoquée. Ok, donc après ce fameux... Okay. Ah ouais, j'avais oublié ça. Quel film. Ok, allez, on finit, bon bah allez, en deux temps, trois mouvements. Ouais, c'était beau ce film, ouais. Lolo Kuhn écrit « Ce film m'a démoli ». Qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était fort. Ouh, j'en ai des frissons. Je crois que je serais incapable de le revoir à nouveau, c'était trop fort. Alors rapidement, les résultats sportifs du week-end, on va aller vite, hein. Du côté du championnat de Ligue 1, c'est vrai que c'est assez fascinant ce qui se passe, qu'il y a un vrai suspense. Le PSG peut tout à fait se faire rattraper par l'OM par exemple, voire même par Monaco au classement général, hein. Qui sera champion, il y a un vrai suspense. Vous avez deux clubs qui, festival de buts d'ailleurs, ont gagné leur match de ce week-end. PSG face à Lille, sauvé par, non pas par étoile, non pas par Rayou, mais par les étoiles que sont Mbappé et Messi. Merci beaucoup Aldaini pour le raid. On a reçu plein de raids ce matin, c'est adorable. Merci Falun TV pour le raid tout à l'heure aussi. Voilà, l'OM a aussi gagné son match. Et on a, pour ceux que ça intéresse un petit peu le foot, un joli classico qui arrive dans quelques jours. Voilà, c'est l'OM qui reçoit, je crois, le PSG. Un match de folie. On va saluer aussi Julia Simon, hein, la biathlète qui vient d'attraper une nouvelle médaille de bronze. Je crois qu'elle avait eu l'or déjà. Qui sauve un petit peu le bilan global des biathlètes français. Voilà, pour l'essentiel de l'actu, on va dire. Et je voulais terminer avec l'article qui, à titre personnel, m'a le plus passionné ce matin, parce que voilà, ma culture de jeux vidéo étant ce qu'elle est, c'est-à-dire assez réduite, je suis assez à l'affût de tous les articles dans la presse non spécialisée généraliste que je lis sur la question. Une pleine page sur où on en est du jeu vidéo en France aujourd'hui. En termes de vente, hein, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les sous-sous, les franchises qui marchent très très fort, etc. Donc on va finir là-dessus. Merci Rain Whiteblum, bonne journée à toi. Voilà. Et franchement, voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des journaux français, notamment les Échos, qui suivent l'actualité jeu vidéo de façon assez qualitative en fait. Voilà, donc c'est assez pas mal. On va voir ça. Je prends mon élan. Et puis après, j'irai faire une petite sieste, parce que j'ai pas question pour un champion aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de cet article. En perte de vitesse, les géants du jeu vidéo s'appuient sur leur titre phare. Alors, lancé à l'automne, alors le constat de l'article, globalement, c'est que ce qui marche très fort en ce moment, c'est de grandes franchises, des titres phares, leur évolution. Ça marche très fort en termes de vente, mais du coup, ça laisse pas forcément de place aux nouveaux jeux. Ah là là, les virus. C'est parti pour les petits exemples. Lancé à l'automne, le 19e opus, c'est énorme, de Call of Duty d'Activision, Blizzard a réussi son meilleur démarrage historique en termes de revenus. 19e opus de Call of Duty, il y a des joueurs de ce jeu-là, les jeux. Meilleur démarrage alors que c'est le 19e opus. Il y a des joueurs de Call of Duty ici. Commercialisé à la même période, le dernier FIFA a aussi réussi son entame de match. Il y a Kida qui est en train de jouer en nous écoutant. Ok, ça joue. FIFA 23 est en train de devenir le plus gros titre de l'histoire de la franchise. Donc on a quand même des franchises hyper anciennes, mais dont les dernières éditions marchent très 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 fort. Ok. Oui, il parle de Harry Potter, on va en parler. Du côté de Take-Two, le jeu d'action d'aventure GTA s'est écoulé à 5 millions d'unités, portant le total des ventes à 175 millions, c'est juste totalement incroyable, depuis sa sortie en 2013. 175 millions ? C'est fou ça. Reste que cette omnipotence, c'est autre chose, c'est quand t'as mangé trop de cassoulet. Reste que cette omnipotence... était pas mal ça. Des méga-productions n'a pas été sans conséquence sur les nouveaux titres lancés récemment. Beaucoup n'ont pas su trouver leur public, je suis très fier de ma vanne, y compris des jeux très attendus par les joueurs et édités par des poids lourds du secteur. Ah, donc les nouveautés, ça a moins bien marché. Sorti cet été par Embracer, Saints Row a sous-performé. C'est quoi Saints Row? C'est bien? C'était très attendu et ça n'a pas très bien marché. Quoi ? Suito, Samuel, si tu passes à l'occasion dans le 3e arrondissement, je te ferai une petite visite des locaux de Team Vitality pour te faire découvrir tout ça. Mais oui, mais envoie-moi un DM sur Twitter. Envoie-moi un DM sur Twitter. C'est un GTA-like. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. Autre exemple, Mario Plus de Lapin Crétin, Sparks of Hope. Voilà, pas très bien marché. Pas très bien marché. Lancé à l'automne. Ah, Saints Row, vraiment nul le dernier, me dit HKM. Du côté de Take-Two maintenant, le jeu Marvel's Midnight Suns, en dessous des attentes. En dessous des attentes. Mais si beaucoup de jeux de qualité ne se sont pas imposés sur le marché, c'est aussi parce que celui-ci est de plus en plus concurrentiel. Voilà. Alors, Xac Zetrov, tout ça reste des grosses productions, oui. Mais le constat des Échos, c'est que ce sont plutôt les franchises historiques très anciennes qui marchent très très fort et un petit peu au détriment de tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? que du coup le succès des grosses franchises qui existent depuis très très longtemps, du coup, laisse peut-être pas trop de place aux autres. Clairement oui, me dit Bachar, ok. Bah non, les jeux nuls se vendent pas, c'est tout, dit Dugommier. Ça a toujours été le cas, dit Not to Kill. Ok, d'accord. Alain, ouais, est pas d'accord, clairement pas. Ah, mais Imsato dit, bah non, Saints Row, c'est une grosse franchise, en fait. Sur 4, t'es un petit peu d'accord, ça tourne en rond, le marché est devenu chiant. Ah oui, t'as raison. D'ailleurs, oui, c'est la raison. Il y a Santé, mais pas des pieds, joli, qui nous dit, ça dépend, Hogwarts Legacy, ça a très bien marché. Eh ouais. C'est pas une franchise à proprement parler, même si c'est issu de l'univers d'Harry Potter. Peut-être que des jeux à 70€, ça n'aide pas forcément d'en acheter plusieurs, dit Riley Lafritte. Ouais. Vous avez raison. Et alors, effectivement, il y a un article à part consacré à l'affaire Hogwarts Legacy, à l'énorme succès du jeu Harry Potter. Je lis rapidement, le dernier Harry Potter s'impose comme le hit du début d'année. Lancé il y a une semaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, le titre Hogwarts Legacy, l'univers de Poudlard, s'est déjà vendu à plusieurs millions d'exemplaires. L'industrie vidéoludique tient son hit du début d'année. Le titre Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, a plus que réussi son entrée en matière. C'est monstrueux, on peut déjà estimer que les ventes sont comprises entre 5 et 10 millions d'exemplaires dans le monde, estime un spécialiste. La dynamique de vente pourrait même être alimentée dans les prochaines semaines et mois, puisque Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, va débarquer sur la précédente génération de consoles de salon, PlayStation 4 et Xbox One, en avril, et sera ensuite lancé sur la Switch de Nintendo. De Nintendo le 25 juillet, quand je vais me lancer à fond sur le jeu vidéo en septembre et que ça va donner du dis donc. Elle est bien ta console Nintendo. Ça va être formidable. Ça va être formidable. Je vais me faire plein d'amis. Musk est... Oh putain. Soyez là en septembre quand je vais me lancer dans le jeu vidéo. On va bien rire. À mes dépens, mais on va bien rire. Tiens, j'ai acheté une console Nintendo. Oh non, ça va être... Soyez là. Rendez-vous en septembre. Donc ça marche très fort. Malgré la polémique, parce qu'on va en parler, bien sûr. La dynamique de vente devrait être alimentée dans les prochaines semaines, donc édité par Warner Bros. Games, développé par le studio Avalanche Software, qui n'avait pourtant aucune référence en matière de méga-production, c'est vrai ça. Le titre a été acclamé par la critique, c'est un jeu très abouti qui réussit à parler aux fans de la première heure d'Harry Potter comme aux gamers ne connaissant rien à cet univers. Ouais. Mais bien sûr qu'en septembre, on va aller à mort sur le jeu vidéo, bien sûr, vous allez voir, on va tout casser ici. La sortie de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, n'a pas été sans polémique. On en a parlé d'ailleurs dans une hebdo Étienne il n'y a pas très très longtemps. De nombreux internautes ont appelé au boycott du jeu en raison de propos de J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, jugée transphobe. Vous connaissez la polémique, on ne va pas la refaire. Ce qui n'a cependant pas empêché le jeu de se hisser immédiatement en tête des classements de vente. Votre avis là-dessus ? Est-ce que c'est le hit de ce début d'année ? C'est un petit peu l'avis des échos ? Le jeu est dingue. Vous êtes plusieurs à avoir écrit dans le chat depuis tout à l'heure que le jeu était vraiment top. Il y a Samy qui dit « Je connais pas la polémique, tu peux en parler deux secondes ?» Non. J.K. Rowling, Harry Potter, la question de la transidentité, des propos transphobes ou pas, deux secondes, non. Il nous faut deux heures. Donc non, moi j'ai sieste après. Tu tapes J.K. Rowling, Google, tu vas te régaler. T'en as pour deux jours pour essayer de comprendre le truc, mais tu vas te régaler. Clairement le jeu est incroyable, c'est un bon jeu en vrai, oui, mais pas le jeu de l'année, dit Excalamez. Un peu court le jeu de l'année, banger, ok, ouais. Sinon on a fait une hebdo Étienne là-dessus, c'était pas assez, vendredi, mais c'était vendredi d'avant je crois, et on en a parlé genre une heure et demie quoi, n'hésite pas, voilà, ok. C'est un bon jeu, mais pour moi, il a déjà fait son temps. Bah, ça vient de sortir. Ok. Bon, enfin, globalement, vous avez plutôt un avis positif sur ce jeu. Ok. Avant de se quitter, parce que l'heure est venue, parce que ça fait 2h54 que je cause tout seul dans mon micro, Non, c'est pas vrai. On est plein, en fait. On est plein dans ma tête et on est plein avec vous aussi. Avant le raid, on a oublié de faire l'horoscope. Eh oui! Eh oui! Ceux qui sont là pour la première fois, ici, on fait l'horoscope. C'est-à-dire explication. L'horoscope, on n'y croit pas, mais quand on arrive sur le Parisien, et j'ai oublié tout à l'heure, et que j'arrive sur la page de l'horoscope du Parisien, qui est à la fin, ici, et que je dis horoscope, le premier et la première à me donner son signe astrologie dans le chat, je lis son signe. On n'y croit pas, ça nous fait marrer. Sauf que là, j'ai 6000 propositions dans le chat d'horoscope. Donc non, il va falloir... Tiens, on va remettre les ballons. On va mettre une petite décoration. Voilà. Ah, mais il y en a qui est haut, là. Je vais vous trouver une petite question d'actu. Ok. Ok. Pour vous départager. Je vous pose une question d'actu. Première qui me donne son signe astrologique, qui l'écrit avec la bonne réponse à côté. Donc, dans le même message, vous mettez la réponse et votre signe. Ok. Correctement orthographié, parce que là-dessus, je suis maniaque. Eh bien, vous gagnez. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question d'actu ? Je sais. J'ai une idée. Je sais. Vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Moi, je sais. Ok. Écoutez bien. C'est une question d'actualité. C'est une question aussi de stream et de YouTubing. Jeudi, vendredi, samedi, l'ami Inox Tag organise donc dans une villa 3 jours de fête de live, de stream sur sa chaîne YouTube pour fêter ses 6 millions d'abonnés. Il a invité plein de YouTubeurs, plein de streamers. J'ai l'insigne honneur d'être reçu vendredi matin 9h30, 10h30 sur sa chaîne pour parler d'actualité avec Inox. Mais la veille, jeudi soir, il y a une émission avec plein de gens formidables, notamment Étoile, notamment Amine, notamment Grim, notamment Maxime, voilà, plein de gens. Voilà. Comment s'appelle cette émission ? Non, ça n'est pas question pour un streamer. Non, c'est un nom précis. Non. Voilà. C'est... Non. Non, ça n'est pas la nuit de la culture. Non. Non, ça n'est pas question pour un nulos. Non, presque. Oui, non, ça n'est pas question pour un nulos. Non, j'ai l'affiche sous les yeux. Non, c'est pas une nuit de culture. Non, allez. Non, c'est pas une nuit de culture, non. Mais vous avez trouvé ça en 2 secondes, faut chercher. C'est pas question pour un nulos. Non, c'est pas question pour un nullissime. Non! Yes, j'ai trouvé. Mysterious Man 14, tu as gagné. C'est question pour des nulos. Voilà, vérification, parce que ici on vérifie tout. Regardez le visuel. En bas, là, jeudi soir, sur la chaîne d'Inox, voilà, avec Amine, Billy, GMK, Max, Grim, Étoile. Question pour des nulos. Je ne pouvais pas donc accepter question pour un nulos. Voilà, donc c'est qui a gagné, c'est Mysterious Man 14, très mystérieux comme pseudo, et donc ce sera Poisson, voilà, exactement, voilà. Tiens, vous savez quoi, on va se faire la petite vidéo pour voir l'événement d'Inox à partir de jeudi. Je vais vous baisser peut-être un petit peu le son, vous êtes prêts? Regardez tout ce qu'il y a, jeudi, vendredi, samedi, et je vous retrouve sur la chaîne d'Inox vendredi matin. Plein de surprises! Allez, on fait une petite pause. Regardez, ça commence jeudi. Présentation de la villa, des programmes de 13 jours, dégustation, cuisine, croûtons, top 1 avec Michou, Le Bouzeau, Valouz, que les meilleurs. Événement, nouveau jeu sur OneCube avec Catsup, ouverture colis, blabla, Among Us, question pour des nulos, on vient d'en parler, soirée horreur avec JMK, et ça, c'est que jeudi. Et vendredi, 9h, réveil petit déjeuner, 9h30, 10h30, la matinale avec Samuel Etienne. Je viens avec mes infos, on parle de l'actualité avec Inox. 10h30, midi, musculation avec Idriss. 12h, 13h30, live cuisine. 13h30, 15h, Rocket League. 15h, 18h, après-midi avec les croutons. Radio Libre, 18h30, 20h, avec Théodore, Amour et Amitié. Soirée Smash avec Idriss, Billy, Amine. 23h30, 1h, impro. Et samedi, 9h réveil, la matinée avec Airtiste, 9h30, séance musculation avec Idriss, live cuisine repas, un son à une après-midi, 13h30, 18h, 60 secondes avec Michou, 18h, 20h, et surprise, peut-être la soirée dans la villa. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est poisson. C'est poisson. Pourquoi tu restes pas pour la séance de muscu? Parce que je suis au régime crêpe. Voilà, c'est parti pour poisson. Poisson, vous êtes prêts? Question pour des nullos. Ça va être génial. Ça va être génial. Ça va être génial. Poisson, cœur, c'est là. Romantisme et sensualité feront très bon ménage dans votre vie sentimentale. C'est chaud. Réussite, vous aurez la possibilité de faire progresser une idée nouvelle, tout en stabilisant vos acquis. Forme, vitaminez-vous. Bon, c'est l'hiver en même temps. Voilà. Il y a tout Timar qui doit être poisson qui dit vie sentimentale, connais pas. Ah, peut-être qu'en fait tu ne le sais pas, mais peut-être que en fait tu es en couple sans t'en rendre compte. Peut-être que l'amour est dans ta vie. Que l'être aimé est là, hein, et t'as déjà intégré dans ses plans amoureux. Hein, et voilà, et t'as même peut-être déjà ouvert un PEL, plan épargne logement, et voire même un contrat d'assurance vie à ton nom, et commencé à cuisiner en secret des petits plats d'amour, mis provisoirement à la congélation pour quand l'amour sera révélé au grand jour, mais peut-être que l'amour est là, quoi. Ne perds pas espoir. Et c'est tout. On finit sur cette note d'optimisme. Et 3 heures pile, impeccable. Hop. Je mets les journaux de côté. Pourquoi je les jette pas? D'abord parce que je donne à manger à mes lapins, parce que j'ai un élevage de 350 lapins ici à la maison. Ne le dites pas aux voisins parce qu'ils pensent que ce sont les enfants qui jouent. En fait, c'est les lapins. C'est très gentil, les lapins. C'est très doux. Et donc je les garde pour mes lapins et aussi pour l'hebdo Étienne de vendredi, parce que vendredi on va revenir sur l'actualité de la semaine. Peut-être qu'on parlera un petit peu de jeux vidéo, tiens, ça pourrait être pas sympa. Avec qui? Avec Ponce qui vient pour la première fois dans l'hebdo Étienne. Avec qui? Avec Jean Massier, pilier de l'émission, qui revient, j'en suis très content. Avec qui? Avec Constance Villanova, journaliste indépendante qui est super aussi. On va se régaler, les amis. Merci, je me suis régalé. Voilà, mais les amis ballons, merci beaucoup, je me suis régalé, ça a été super sympa de m'accompagner. Je vais aller voir mon petit Solal, peut-être en petite mode sieste, voilà. Je vais faire un petit dodo avec lui, parce que je suis, je crois que j'ai besoin de sommeil comme... retrouvé. Je ne connaissais pas cette chaîne. Voilà, c'est une découverte, c'est grâce à vous. Voilà, je suis allé. Alors, vous savez que vos propositions, je les lis vraiment et je vais voir toutes les chaînes. Certains, c'est des amis, je les connais très très bien. Certains, j'ai déjà raid, donc je cherche aussi à changer un petit peu. Il s'agit de donner de la publicité à des streamers et des streameuses. C'est un des outils sympas de Twitch et je ne connais pas cette destination. Je vous la donne pour ceux qui se perdraient en cours de route. Ça arrive parfois avec les portables et les tablettes. On va voir la bonne auberge. Voilà, et ça nous parle, je crois, de jeux de rôle. Merci, soyez heureux, vous le méritez. Rendez les autres heureux autour de vous, ils le méritent aussi. À demain matin, c'est une semaine où on va beaucoup streamer. Merci encore pour ce matin, je me suis régalé. Ciao ciao, et c'est parti pour le raid. La bonne auberge.